I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La nouvelle Freebox Ultra, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle enlève? On a des enseignements, des résultats financiers, des trucs intéressants. Je vous promets, ça peut être intéressant aussi. Et un petit peu, un tout petit peu, on va parler un tout petit peu de l'Apple Vision Pro. Évidemment, on ne peut pas y couper, mais ça sera juste un tout petit peu tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 551, nous sommes en février 2024, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode plein d'animation, de joie, de bonheur, de trucs intéressants aussi comme vous l'avez entendu en pré-générique et également de Cédric Deluca et de Corben. Bonjour messieurs, hey, comment allez-vous?
Ça roule et toi?
Écoute,
ça va.
Ça peut aller, ça peut aller. Je suis content de vous recevoir comme toujours. Pas trop froid. Écoute, là, on a eu quelques semaines autour de Noël à moins 10, moins 20. Puis c'est remonté, il faisait chaud, hein, c'était l'été, il faisait moins 5. Et là, c'est en train de redescendre. Je vous avoue que je savais qu'on est encore en février, donc ça risquait. Mais je commençais à me dire, ah ouais, ça y est, c'est bon. On voit le printemps, tu sais, au loin, comme ça, à l'horizon. Comme un pirate sur son navire qui a plus de vivres, et tu te dis « Oh, terre au loin, regardez, capitaine !» Et puis là, tout à coup, patatras, l'hiver revient. Et donc, demain matin, il va faire genre moins 15, moins 17, quoi.
Eh ben, tu déneiges, quoi.
Ah, bah, c'est très bien.
Non, le pire, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, le pire, c'est pas tant le froid, même si c'est, ça, c'est bien pénible, c'est que quand il a neigé avant, et que t'as bien paqué la neige en marchant, en roulant, tout ça, et que la température remonte un petit peu, si ça monte un peu au-dessus de zéro, c'était le cas pendant quelques jours, ça fond, et puis après ça redescend, et donc ça regèle. Et le verglas, partout, le pays entier, en tout cas la région où on est, c'est une patinoire. Je peux vous dire que c'est hyper pénible, c'est hyper relou. Donc voilà, c'est ça.
T'as du carrelage, en fait, partout autour de chez toi. Mais le carrelage, hyper lustré.
Mais c'est ça, le carrelage vraiment d'enfoiré, quoi. Le carrelage où c'est tellement bien lustré que tu peux pas marcher. Donc,
il faut devoir faire des dérapages au volant de ta voiture, quoi.
Ah ben, je suis une sorte de conducteur expert de rallye sur neige, là, maintenant. Quand j'emmène les enfants à l'école, c'est genre... Tu vois, c'est formidable. La seule chose qui me manque maintenant dans la voiture, c'est un Apple Vision Pro. Pour pouvoir en même temps suivre 4 matchs de basket, tu vois, ce genre de choses, et faire les petits
c'est
mouvements.
Ça.
On va y revenir.
Fast and Furious Finlande.
Fast and Furious Finlande, oui. On va y revenir dans un petit instant à l'Apple Vision. Un tout petit peu, je vous promets, juste un petit peu. Mais avant ça, donc, je remercie Cédric d'être avec nous. Tu prends quelques instants de ton travail qui t'occupe beaucoup pour te consacrer à la commentation de l'ActuTech. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à toi.
Et Corben, bien sûr, le blogueur, chef de l'Internet, qui est, je crois... c'est le premier blogueur de l'histoire. On a retrouvé des traces dans la grotte de Lascaux de ses premiers articles.
Il y avait un blog avant l'invention du blog.
C'est ça.
Donc, si tu veux,
c'est
ça. Voilà.
Merci à toi d'être avec nous aussi, Corben.
C'est une méga star. Hein. C'est une méga star. Comme moi, j'ai des étudiants ici, quand je leur dis je connais Corben, mais non, c'est pas possible. Mais si, je te jure.
Comme
c'est quoi, avec l'informatique, quoi. Voilà, quoi.
Mm-hmm. J'ai pris quelques temps sur mon temps de chômage hein, pour venir dans ton émission, Patrick.
J'apprécie que tu utilises bien tes comment on dit
pour venir.
Et donc tu leur dis ouais, je connais Corben, ils sont impressionnés. Tu leur dis je connais Patrick Béja, ils disent ils sont polis, tu vois. Donc ils font ah oui, d'accord. Et après tu leur dis oui, je connais aussi Corben. Ouah, Corben, comment, c'est fou.
Ouais, c'est ça.
Patrick Béja, ça marche aux États-Unis.
Non,
ça marche aussi ici. Moi, j'ai une personne de mon équipe qui connaît très bien Patrick. Et qui à chaque fois dit « Ah, c'est Patrick, je lui ai montré d'ailleurs quand t'appelais et tout, voilà. » Mais tu le connais. Bon. Non, mais c'est vrai, C'est quelqu'un qu'en plus tu connais de la communauté Overwatch, qui est joueur pro, bah, Laurent Prinder,
Déguin. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, Déguin, évidemment. Voilà. Évidemment.
Qui est mon coordinateur.
Merci à vous deux d'être là et bonjour à Déguin, évidemment. Merci également aux participants au Patreon. Je voudrais remercier spécifiquement les nouveaux patriotes Créfiche, Jean-Denis, quelqu'un qui a écrit son prénom en cyrillique, enfin son nom en cyrillique, Cyril Kuznetsov, si je ne me trompe pas. Bon, je me suis un petit peu fait aider, mais je reconnais plus ou moins certaines lettres. Donc merci à toi, Cyril. Mathias Beljean, Lighty. Ou Letty, Benoît Beaucheron Barthélémy et David, un grand, grand merci à vous et un grand merci également aux producteurs de l'épisode, Lancelot Davissard et Éric Bastin. Merci à vous tous. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et à propos de Patreon, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, enfin je le savais, j'ai lancé... Savez-vous quand j'ai lancé le Patreon ? Le tout premier.
Sans lire le document ?
Ouais, sans lire le document qui donne la date exacte.
Ah ok, alors je sais
un
pas.
An avant le Covid ? 2 ans avant le Covid ?
J'ai lancé le Patreon le 10 février 2014. C'est-à-dire que là, nous sommes aux 10 ans du Patreon. Au prochain épisode, 10 ans seront passés. C'était vraiment le tout début du chemin parce que c'était le Patreon que j'ai lancé pour tester un petit peu le concept. C'est pas là que je me suis vraiment lancé en indépendant, mais c'est quand même la première étape quoi, de cette aventure incroyable. Et je ferai pour ce week-end un petit hors-série pour vous parler un petit peu de tout ça. Si vous avez des questions à me poser à ce propos, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez les poser très très vite hein, parce que je vais enregistrer l'émission a priori demain, mais sur le Discord il y a un lien pour me poser les questions. J'ai mis aussi sur tous les réseaux sociaux, mais je voudrais surtout vous parler un petit peu de ce début d'aventure. Et puis c'est parce que évidemment c'est un truc hyper important dans ma vie et un petit peu dans la vie de l'émission elle-même, quoi, même si elle existait avant, et du rendez-vous jeu et tout ça. Donc, je vous ferai un petit hors-série ce week-end pour vous parler de tout ça. Mais 10 ans de Patreon.
Ouais, bravo.
C'est dingue, hein. 10 ans...
Et toujours pas riche.
Et toujours... Alors, je pense pas qu'on puisse dire que je suis pauvre, hein, si tu veux. Il y a des gens qui sont effectivement
dans ma patron. Je parlais de riche, tu sais, genre les yachts, tu vois.
Ah oui, de riche, oui, non, là, non, effectivement. Je suis
très, très riche.
Toujours pas riche, c'est ça, je comprends. Les riches qu'on a le droit de détester, c'est ça ?
Ouais. Okay. Nager dans tes pièces et tes billets comme
oui. Picsou, quoi. Et ouais, toujours ouais. Pas. En 10 ans, j'espère que mon objectif pour le prochain anniversaire dans 20 ans, c'est ça. C'est d'avoir une piscine pleine de billets. Donc, aidez-moi à l'atteindre sur patreon.com/rdvtech.
Voilà.
C'est l'occasion ou jamais. Et on se lance tout de suite dans l'infotech, les infotech de la semaine. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le générique, et c'est plutôt celui-là. Les infotech de la semaine, puisque c'est bien sûr le but de l'émission, hein. C'est pour ça que les patriotes soutiennent et que les patriotes donnent des sous pour que je puisse faire ce métier. C'est pour avoir des informations intéressantes, bien analysées, bien commentées. Bon, quand il y a Cédric et Corben, c'est un petit peu plus compliqué d'être vraiment judicieux dans ces analyses, mais on va essayer quand même. Et on va commencer bien. Avec... mais vous savez que ça prend du temps, hein. C'est du travail de faire toutes ces... De tirer toutes les informations, de prendre les trucs intéressants, de bien les comprendre, de bien les expliquer. Bon, en même temps, sur le premier sujet, c'est la nouvelle Freebox. Pas ultra, ultra compliqué non plus. Qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle Freebox ? Eh bien, il se passe pas mal de choses. Évidemment, à chaque fois que Free annonce une nouvelle Freebox, ben, c'est un petit peu un événement parce qu'ils sont, par certains aspects, la locomotive de l'industrie pour les aspects d'évolution technologique et d'évolution tarifaire. On peut vraiment dire que ce soit pour la connexion Internet à la maison ou pour le téléphone mobile, même s'ils ont d'autres défauts par ailleurs, et ben Free est le moteur de l'industrie. Et il y a beaucoup de choses qu'ils font qui sont innovantes et que les autres finissent par suivre. Donc, évidemment, à chaque fois qu'ils annoncent une nouvelle Freebox, ils le font un petit peu comme une présentation Apple. Ça fonctionne pas trop mal. Il y a une petite vidéo d'introduction. Et puis, il y a Xavier Niel qui vient sur scène et qui fait son petit show marketing. Bon, il y a différents effets qui fonctionnent, généralement, je trouve, hein, si on est un petit peu client. Mais Ce qui compte, c'est les annonces elles-mêmes. Et les annonces elles-mêmes, eh ben, c'est donc la Freebox Ultra, Freebox version 9, c'est la 9e, hein, qui apporte son lot de nouveautés. Ce qu'on retient de cette annonce de la nouvelle Freebox, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des nouveautés techniques, c'est-à-dire qu'elle est équipée du Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, ça change quoi par rapport aux autres Wi-Fi ? Eh bien, ça change qu'elle peut, on peut se connecter assez rapidement à ces appareils. En gros, la connexion est aussi rapide et fiable que les connexions filaires. Et généralement, le Wi-Fi, on s'en méfie, surtout quand on fait des choses comme le streaming, le jeu en ligne, ce genre de choses. Là, avec le Wi-Fi 7, on se connecte sur trois bandes en même temps. Il y a plein de systèmes qui font que les connexions sont rapides et fiables. Et du coup, le Wi-Fi 7 est une vraie avancée pour certains usages. Moi, je ne vous cache pas que je suis sur du Wi-Fi 6 depuis des années et ça marche très bien, même pour mon streaming. Donc voilà, c'est possible aussi quand on est juste à côté de la connexion et qu'on est dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de perturbations. Mais le Wi-Fi 7 sera beaucoup plus fiable encore. Et même pour les usages les plus intensifs, bon, bah, si on est en Wi-Fi 7, a priori, ça devrait aller. Sachant qu'il vient d'être finalisé, le standard Wi-Fi 7, et donc bah, les appareils que vous utilisez, ils ne sont pas encore Wi-Fi 7. Ça commencera à arriver cette année, a priori, si vous achetez un truc un petit peu haut de gamme cette année, il sera en Wi-Fi 7 et vous serez prêt avec votre Freebox Ultra. Un autre truc important, c'est qu'il y a une connexion bidirectionnelle 8 gigabits par seconde, donc en download et en upload, ça fait beaucoup. Peu de gens, pour ne pas dire personne, se servira de 8 gigabits par seconde. C'est vraiment des cas d'usage hyper spécifiques, voire quasiment inexistants. Mais il n'empêche, c'est une grosse avancée pour les connexions, sachant que généralement, on est limité à, allez, on va dire 200, 500, 1 gigabit seconde. Et c'est surtout en descendant et pas en montant. Montant, encore une fois, il y a peu de cas d'usage pour ça, mais c'est quand même pratique. Et puis, il y a un autre gros morceau qui n'est plus dans les nouveautés matérielles, c'est les abonnements. Il y avait déjà avec la Freebox Delta des abonnements, un nombre d'abonnements important. Là, ils en rajoutent encore. Ils rajoutent par exemple Disney+. Ils rajoutent également une catégorie de Canal+. Ils rajoutent la Ligue 1, 100% des matchs de Ligue 1, etc. Pour les services genre Disney, Netflix, Amazon, Amazon Prime, il y a musique, Amazon Prime Vidéo et Prime Gaming. Pour Disney et Netflix, par exemple, c'est les niveaux d'abonnement avec pub. Donc, avec on peut pub. Payer plus pour avoir sans pub, mais oui. Là, c'est avec pub. il n'empêche, tout ça, pour Canal, 50 euros par mois. Canal, oui, c'est que en live. C'est la chaîne Canal et pas le replay. Donc, évidemment, on n'a pas tout. Mais c'est quand même important. Et puis, il y a aussi des abonnements à des magazines et des journaux avec caféine. Il y a des abonnements avec la musique. Donc, Amazon fait aussi la musique, etc. Il y a quand même quelques petits trucs en moins. On n'a plus de connexion à un disque dur externe. On est uniquement en connexion SSD M2, si je ne me trompe pas. On n'a plus de connexion de disque dur externe. Tout le module domotique est retiré. Donc, si vous avez toute votre domotique contrôlée par votre Freebox Delta, bon, bah, faudra un autre système pour contrôler votre domotique. Et la box TV n'existe plus non plus. Free, avait, si je ne me trompe pas, c'est eux qui avaient créé les box avec box TV. Bah, là, il faut avouer que, comme pour la domotique, on arrive à une étape où je pense qu'on peut utiliser d'autres outils pour regarder ce qu'on veut sur sa télé, donc elle n'est plus forcément utile. Mais du coup, ils enlèvent quand même des choses, c'est marrant parce qu'ils font passer ça comme on rajoute plein de trucs et en plus c'est moins cher, donc c'est incroyable, on fait de gros efforts. Je pense qu'ils s'y retrouvent financièrement. Oui. Bon, c'est pas par... clairement, c'est une offre qui est très intéressante financièrement, mais je pense qu'ils s'y retrouvent aussi, enfin évidemment qu'ils s'y retrouvent. Donc le tout, c'est 50 euros par mois pendant un an, là où les concurrents font 50 euros, enfin une réduction pendant 6 mois, ils ont bien insisté dessus, Xavier Niel qui parlait de cet élément de shrinkflation, eux ils sont toujours à 50 pendant un an, et 60 au bout d'un an, ou alors si on ne veut pas les services, on peut prendre la box pour seulement 40 euros par mois, puis 50. En gros, ça me semble quand même être une offre qui est assez intéressante. Je trouve moi que Free continue à mener au niveau technologie et offre et rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que moi, je dis ça depuis la Finlande, je connais un petit peu la France quand même, hein, mais qu'est-ce que vous pensez de cette Freebox Ultra ? Dis-moi, Corben.
Bah, elle a l'air très bien, hein. Moi, après, je suis plus client chez Free depuis 2010, mais donc, donc c'est difficile à savoir, mais non, écoute, elle a l'air très bien. Moi, ce que je me souviens, c'était à l'époque sur la Freebox Révolution, donc ça, c'était la dernière que j'avais eue. C'était pareil, il y avait plein de trucs dedans, c'était génial, etc. Mais ça pêchait au niveau des interfaces, tu vois, tout était très lent, machin, etc. Donc, j'espère que ça a évolué dans le bon sens aussi côté logiciel, puisque c'est bien d'avoir 50 000 services gratuits, une connexion qui va à fond, et voilà. Mais si derrière, après, bon, tu vois, c'est pénible à utiliser, c'est pas le pied. Mais bon, je pense que là-dessus, ça doit être réglé maintenant, j'imagine, j'espère.
Les retours que j'ai, alors l'interface, je ne la connais pas bien. On précise sur YouTube que la box TV Pop est compatible avec les nouvelles Livebox, tout à fait. Les nouvelles Freebox, pardon. Mais il y a aussi les apps qui font ça. Si on ne veut pas avoir la box, c'est possible. Et puis, d'une manière générale, les retours que j'ai eus, c'est que moi, mon image de Free, c'était vraiment, ils te filent plein de trucs, mais au niveau de la qualité de connexion, il y avait eu toutes ces histoires avec YouTube, ils ne voulaient pas payer pour mettre les serveurs de cache dans leur centre de serveurs, etc. D'après les retours que j'ai sur le Discord, tout ça, c'est réglé. Donc, ça fonctionne très bien aujourd'hui, Free. Donc, Cédric, je te vois acquiescer.
Oui, alors je connais un peu le dossier, mais pour le coup... Oui, tous ces problèmes réseau, là, etc., de peering et compagnie, tout ça, c'est réglé. Elle n'est pas livrée sans player. Hein. En fait, vous avez le player Pop, l'ancien, qui est avec. Ce qu'il y a, c'est que le nouveau player Ultra est encore en cours de développement et du coup, il arrivera plus tard. Ils ont fait une annonce, d'ailleurs, dans ce sens, en disant que...
Ah, donc ils n'abandonnent pas complètement le
player. Non. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas du tout... il n'est pas prêt. Voilà, de leurs mots, en tout cas, il n'est pas prêt. Donc, pour le moment, il vous propose encore l'ancien. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'avant, Free, c'était vraiment l'opérateur des bidouilleurs avec l'espèce de NAS intégré. Alors, des bidouilleurs gentils, c'est-à-dire que si on est un vrai bidouilleur, on a un vrai NAS. Ouais. Mais si on avait envie, en tout cas, de s'initier ou à minima de jouer un petit peu avec le réseau, etc., c'était tout à fait possible. Sur la partie domotique, j'ai toujours tiré la sonnette d'alarme parce qu'en fait... on avait l'expérience déjà de Orange ou même de SFR qui avait lancé des offres domotiques et le jour où ils arrêtent, eh bien c'est ciao le matériel, hein, tout simplement. Alors après, avec une nuance près, c'est qu'à l'époque, je crois que c'était SFR qui proposait du Zigbee et une box qui a intégré le Zigbee. Donc ça veut dire qu'il suffisait juste d'acheter une box domotique Zigbee pour que ces appareils puissent fonctionner. Mais on perdait toute sa configuration, fallait tout refaire, etc. C'est pas aussi simple. Bref, la domotique via les opérateurs de téléphonie, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas du tout la bonne idée parce que le système n'est pas pérenne. Or, c'est quelque chose d'essentiel. Si demain, vous ne pouvez plus allumer vos lumières, ouvrir votre portail parce que vous avez changé d'opérateur, c'est pas la bonne idée. Quoi. Ouais. Après, concernant les services, en fait, c'est un produit d'appel. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est de la pub dans Disney, etc. C'est les services à minima. C'est cool que ce soit intégré. Mais faisons le calcul. L'abonnement... un abonnement internet aujourd'hui, juste internet sans la partie télé, ça oscille entre 30 et 40 euros. Si on prend ces services en version gratuite, enfin, ou du moins en version avec pub, etc., je suis pas certain que on dépasse de beaucoup les 60, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est que
Il y a quand même Canal en direct, la Ligue 1,
la Ligue 1, c'est provisoire en plus parce que les droits sont en cours de renégociation. Pareil, l'année prochaine, ça n'y est plus.
Donc, oui, l'année prochaine. Mais tu vois, sur la première année, il y a quand même... Si tu comptes sur les 50 euros, Disney, c'est quand même 6 ou 7 euros. Netflix, pareil. Amazon Prime, faut être abonné à Amazon Prime. Mais là, tu peux supprimer les abonnements. Amazon Prime, c'est 60 euros par an, je crois, ou un peu plus peut-être maintenant.
Oui, mais t'es pas abonné à Prime pour Prime Vidéo, Patrick.
Non, mais là, t'as l'abonnement Prime tout court. T'as l'abonnement Prime tout court, normal. Oui. Donc, t'as musique, livraison, vidéo, tout ça, c'est un vrai abonnement Prime. Bon, après,
pour moi, ça, c'est
ça te, je ça te convainc pas quoi.
Que ce soit vraiment le cœur de l'offre. Par contre, les 8 gigas descendants et remontants, parce tout que c'est fait, ce qui est annoncé, c'est vraiment la symétrie. Alors, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde y aura droit. Là, ça devient intéressant, surtout pour ceux qui ont une grosse consommation réseau, qui font du stream, pour bidouiller, etc. C'est vachement bien. Et le Wi-Fi 7, c'est pas une petite évolution. Hein. Le Wi-Fi 7, en fait, c'est jusqu'à 46 gigas, en fait. de débit sur le Wi-Fi 7. Donc, c'est monstrueux. Et déjà, se dire 8 gigas, qui va les utiliser? Bah, en fait, quand vous allez commencer à multiplier les appareils en Wi-Fi 7 sur le réseau, déjà même Wi-Fi 6, c'était donné jusqu'à 9 gigas. On n'est jamais à 9, mais on va dire qu'on était au minima à 3. C'est déjà des débits qui sont trois fois supérieurs à ce que vous avez avec un switch gigabit branché en Ethernet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En Wi-Fi 7, en fait, on change complètement de dimension. On est sur quelque chose... En gros, comme tu disais, Patrick, au-delà même du débit qui est largement supérieur au câble... Alors, je parle de débit théorique quand je dis 43 ou 49 gigabits, mais en gros, c'est 43 fois un câble Ethernet. Enfin, c'est, ou 40 fois un câble Ethernet. C'est monstrueux, en fait. C'est 3 fois plus rapide que, ou quasiment 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6, eux.
Donc, oui, mais t'auras jamais 5 personnes qui regardent des flux ça, YouTube 4K. Enfin, jamais, je veux dire, dans quelques années peut-être. Mais...
Ou qui téléchargent, je sais pas, la mise à jour d'un jeu ou je ne sais quoi. C'est
oui,
pas
mais
certain.
C'est pas en même temps. Enfin, je veux dire, ça peut arriver une fois tout le
bon. Ouais, on dirait Bill Gates, tu sais, qui avait dit que 128K ou je sais pas quoi.
Ouais, c'était suffisant.
Calme-toi. Ouais,
c'était, bon, c'était pas calme-toi. Bill Gates. Bill Gates, il a dit d'autres conneries, mais c'était pas sûr ça.
Non, mais regarde toutes les sauvegardes. En fait, ce que je veux dire, c'est que regarde toutes tes sauvegardes cloud, tout ce que tu fais, en fait, même l'usage. Non, mais je dis bien, évidemment, 8 gigas, c'est overkill. Mais multiplié par le nombre de personnes que tu as chez toi, etc. Écoute, moi, je trouve que c'est...
Bah, je vais pas te dire non. Évidemment. C'est-à-dire que, évidemment, si tu me dis, est-ce que tu préfères 1 giga ou 8 giga, et évidemment, je vais dire que je préfère 1. Oui, mais de manière réaliste. Bon. Okay.
Faut justifier le prix, en fait, de l'offre, ouais, etc. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est surtout pour dire, techniquement, nous... on démonte tout le monde. En fait, ouais, cette démonstration du plus gros kiki, c'est pas tellement sur est-ce qu'il y a un usage. C'est surtout pour dire, bah, nous, on est capable de faire du 8 gigas descendant et remontant. Mmh. Je pose ça là, Orange et les autres, salut. Si vous, vous proposez pas ça, c'est qu'en fait, vous le bridez volontairement pour le même prix. Alors, pourquoi pas donner le maximum qu'on peut pour le même prix? En fait, c'est ça, sa démonstration. Elle s'arrête là. C'est juste dire, bah, nous, on vous donne le maximum qu'on peut pour le prix que vous payez. Et Free, en fait, est hyper malin sur ça, c'est qu'il se positionne soit sur le tarif, soit sur l'abondance. Et eux, en fait, là, avec cette box-là, ils ont, entre guillemets, les deux, bien que ce soit quand même pas donné, mais entre guillemets, les deux. C'est, vous avez l'abondance, et avec le débit, les services, tout ce que tu peux mettre dedans, et vous avez le prix. C'est-à-dire que les concurrents, pour le même prix, ne vous offrent pas ça.
Ouais,
donc, en fait, c'est vraiment un positionnement 100% marketing. Et un dernier truc, tu disais... oui, la conférence, tout ça, c'est vrai qu'elle est attendue et tout ça. Ben, en fait, cite-moi un autre événement en France qu'on attend. Les gens cherchent sur le site les petits indices, machin. Il y a tout un rituel qui s'est mis autour. Cite-moi un autre constructeur qui, aujourd'hui, en France, fait des keynotes comme ça et qu'on attend.
Bon, il y a les Orange Days qui sont un petit événement
médiatique. Bon, arrête, c'est fini, ça. Mais... terminé. Mais c'est terminé quand il y avait Luc Besson qui vous expliquait « Oh, je vois le Wi-Fi, tout ça, non, c'est ridicule. » Mais non, y a personne n'attend un événement comme celui-ci. Tu vois, tout le monde attendait ça, tout le monde commentait.
Tout le monde. On sent que tu travailles dans une école pleine d'informaticiens.
La presse-tech. Quand je dis tout le monde, c'est la presse-tech, les blogueurs-tech, les youtubeurs-tech, etc. Tout le monde attendait l'annonce de la nouvelle Freebox parce que comme tu dis, et tu as raison, c'est elle qui définit ce que vont faire les autres.
Ouais,
et c'est vraiment ça, en fait, qui est balèze. C'est que, alors qu'on parle vraiment d'une box Internet, d'un abonnement, les gars, regardez de quoi on parle, là.
Tu sais, en même temps...
C'est un service, c'est un tuyau chez toi pour te distribuer l'Internet, quoi. Enfin, on parle de ça.
Peut-être qu'on arrive à... Peut-être qu'on arrive à un moment où les gens ne se souviennent pas à quel point Free... si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont introduit le triple play, n'est-ce pas? Je dis pas de bêtises.
Oui, c'est les premiers triple play et c'est les premiers à péter les forfaits aussi téléphoniques.
C'est ça,
et même
en
le
prix. Infini.
Que pendant des années, ils sont restés à 29,99 pour Free.
Le niveau d'innovation du triple play, c'est unique dans le monde. Bon, maintenant, on commence à en avoir un petit peu moins besoin parce que plus trop de téléphones. Et puis, comme je disais, la télévision, les box télé, je pense que de moins en moins de gens les utilisent. Le monde.
Moi, j'en ai une dans mon offre. Ouais, moi j'en ai une dans mon offre, box télé. Elle est dans son carton, je ne oui, l'ai jamais. Elle est même sous plastique.
Ouais, je mais moi,
même
je
pas déballé.
Mais on a tendance.
Ça ne branche pas non plus, moi.
Ouais, c'est ça. mais on a tendance à oublier, c'est vrai, à quel point c'était important et même révolutionnaire ce triple play qui a été introduit par Free. Donc, oui, c'est effectivement un constructeur et une société.
Ah, non, très clairement.
Ce qui est bien, c'est qu'ils continuent, tu vois, ils continuent à se développer. Enfin,
ils essaient d'innover, ils essaient de pousser le marché, ça, c'est bien. Et rendre le Wi-Fi 7 accessible à tout le monde, il ne faut pas oublier ça quand même. Aujourd'hui, on n'a pas d'appareil sur le marché. Même le Samsung Galaxy S24, il n'est pas Wi-Fi 7. Il y a très peu d'appareils qui sont Wi-Fi 7. Les derniers MacBook ne le sont pas. Le Vision Pro ne l'est pas alors qu'il est sorti la semaine dernière. Bref, on peut en discuter. Ça va arriver. Mais en fait, elle est future-proof, cette box. Et c'est le message qu'ils font passer. C'est dire, bah, nous, on démocratise et on vous offre le Wi-Fi 7. Qui va changer son routeur pour prendre un Wi-Fi 7 quand il va acheter un S24 ou un iPhone 16 ou je ne sais quoi.
Non, mais je
personne. Bah, si t'es chez Free, c'est là. Voilà.
Très, très, très fan de Free. C'est bien. On dit dans la chatroom, on dirait ma banquière qui voulait me vendre son forfait mobile à 5 gigas. Moi, j'avais mon offre à 300 gigas et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites de 300 gigas? Vous en avez pas besoin. Genre, ah, mais t'as pas besoin de 8 gigas en descendant et montant. Bon, voilà pour la Freebox V9. Et on continue avec un autre sujet extrêmement intéressant, je pense, qui est...
Si tu veux m'embaucher comme commercial. Hein.
Les résultats financiers, c'est la période, hein, on arrive en fin de trimestre. Et je sais que les résultats financiers, ce n'est pas forcément intéressant, mais il y a toujours des informations à glaner. Et j'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles pour en tirer quelques-uns. Donc, je vais vous donner quelques infos que j'ai retenues sur tous ces sujets, et puis on pourra en parler après. Donc, c'est essentiellement les GAFAM, hein, vous en doutez. J'ai même sélectionné Apple, Alphabet et Meta. Donc, chez Apple, une information très intéressante, c'est que les services représentent aujourd'hui 23 milliards de dollars pour le trimestre. 11% d'augmentation d'une année sur l'autre, et les services sont la deuxième source de revenus d'Apple. Il y a en premier lieu les iPhones, évidemment, qui représentent 70 milliards de rentrées. On parle du trimestre. Hein. 70 milliards sur le trimestre, 8 milliards pour les MacBooks, 7 milliards pour les iPads, 12 milliards pour les autres appareils, genre Apple Watch, AirPods, etc., et les services, 23 milliards. Vraiment hyper impressionnant, puisque les services n'existaient quasiment pas il y a quelques années encore. Donc ça, c'est une première chose qu'on retient. Deuxième chose, il y a 2,2 milliards d'appareils actifs dans le monde de la marque Apple. 2,2 milliards. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'un appareil, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'appareils. Entre parenthèses, je mettrai dans la newsletter, comme toujours, les liens vers un petit peu tout, mais aussi vers le compte de App Economy Insights sur Threads, qui fait des graphiques incroyables qu'on utilise souvent pour commenter tout ça. On en avait déjà parlé dans l'émission, super bons les graphiques d'App Economy Insights. Je vous encourage à aller regarder ça parce que ça simplifie beaucoup la compréhension de tous ces sujets. Deuxième chose chez Apple, l'Union européenne, par rapport aux changements qu'ils font avec le DMA et les rentrées, l'Union européenne représente 7% des revenus globaux de l'App Store. Seulement 7% sur l'App Store. J'aurais pensé que c'était plus. Hein. On se dit qu'il y a deux gros marchés, c'est les États-Unis et l'Europe. Et ben en fait, visiblement non, je suis sûr qu'ils ne dévoilent pas ces chiffres-là. Mais je suis sûr qu'il y a des marchés plus importants. On pense peut-être à la Chine ou d'autres, des marchés plus importants que l'Union européenne. Donc 7%, c'est évidemment pour rassurer les investisseurs par rapport à l'ouverture qu'ils sont forcés de faire en Europe sur l'App Store. Bah, c'est 7%, donc à peu près. Donc ça ne représente pas une énorme menace. Tim Cook a également annoncé qu'il travaillait à fond sur l'IA et qu'il parlerait de leurs innovations sur l'IA plus tard dans l'année. Donc on imagine que ça arrivera avec un nouveau Siri pour la WWDC au printemps. Moi, je table sur un nouveau Siri avec un nouveau graphique et qui peut faire plein de choses, on verra. Et puis, un petit mot en passant, aux États-Unis, il y a un problème de brevet qui fait que Apple a dû retirer le capteur d'oxygène, d'oxygène dans le sang, de l'Apple Watch. Et je voulais juste le mentionner parce que ça traîne ici et là. Ça ne concerne pas le reste du monde à ce stade, mais aux États-Unis, ils ne peuvent plus avoir, dans la dernière version de l'Apple Watch, le capteur d'oxygène dans le sang. C'est en logiciel qu'ils l'ont désactivé. Peut-être qu'ils le réactiveront s'ils gagnent leur appel. Du côté d'Alphabet, là aussi, je parle un tout petit peu de service, puisque YouTube Premium et YouTube Music ensemble représentent 100 millions d'abonnés. 100 millions d'abonnés, ce qui fait que c'est devenu une partie non négligeable des revenus de YouTube, et donc l'abonnement compte pour beaucoup. YouTube, ils ont, chez Alphabet, donc chez Google et toutes leurs sociétés, ils sont aujourd'hui à 15 milliards de revenus, de dollars de revenus par les services par an. Par an, si on inclut YouTube, Google One, etc. 15 milliards par an. Je vous rappelle que Apple, c'était 23 milliards ce trimestre. Alors, 15 milliards par an, ce n'est pas rien, surtout que ça a été multiplié par 5 depuis 2019, donc en à peu près 5 ans. Mais il n'empêche, bon, ils sont qu'à 15 milliards et c'est YouTube. Et puis enfin, chez Meta, d'abord, Zuckerberg dit qu'il sera très difficile pour Meta de faire un App Store dans l'Union européenne parce que Apple a mis des règles extrêmement contraignantes. Ça, je veux bien le croire. Mais surtout, ils ont des revenus qui sont en croissance de 25% d'une année sur l'autre sur le trimestre et des bénéfices en croissance de 200% d'une année sur l'autre, à 14 milliards, et ils ont un nombre d'abonnés actifs, enfin d'utilisateurs actifs, pardon, sur toutes leurs apps, un nombre d'utilisateurs actifs en hausse de 8%, à 3,20 milliards sur décembre, sur décembre 2023. Je répète, ils ont 3,19 milliards d'utilisateurs en décembre. Si on prend Facebook uniquement, en utilisateurs mensuels, ils sont à 3 milliards. Bien sûr, ça se recoupe avec le nombre de... Pardon, j'ai dit... Si on compte pour toutes leurs apps en mensuel, on est à 4 milliards. 4 milliards
d'utilisateurs. Si on compte Thread avec, du coup, on a 4 milliards...
0,00.
Non, je plaisante.
Écoute,
4 milliards,
Tu sais quoi, je ferai peut-être un petit after show pour les abonnés Patreon où je vais parler de l'état des réseaux sociaux là après un petit moment et l'arrivée de Threads. Franchement, les choses bougent, hein. J'en parlerai peut-être dans l'after show après la fin de l'émission, mais je pense qu'il ne faudrait pas oublier Threads trop vite. Mais tout ça fait que pour Meta, il y a eu une augmentation de leur valeur boursière de 20%. Ils ont ajouté 200 milliards après ces résultats. C'est l'ajout de valeur la plus importante de cette période, qui va plus loin que Apple, Amazon, etc., dans toute l'histoire. Donc 200 milliards en une journée, enfin en une session. Et puis, entre parenthèses, ils rapportent maintenant de l'argent avec la réalité virtuelle, mais toujours beaucoup, 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 beaucoup moins qu'ils n'en perdent. Donc, ils ont perdu 42 milliards dans la division métavers depuis 2020. 42 milliards qu'ils ont dépensés. Mais comment tu fais ? Depuis 2020, genre en 3-4 ans, ils ont dépensé 42 milliards. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font ?
C'est la valeur des NFT qui a chuté. C'est la valeur de leur NFT qui a chuté.
Mais non, c'est juste la section métavers. Juste la section
métavers. Ils vont peut-être nous sortir un truc de dingue. Hein. Peut-être que ça va être la folie. Hein.
Écoute. Dernière chose quand même, l'une des raisons qui fait que la valeur boursière de la boîte a augmenté, c'est qu'ils ont fait un rachat d'actions. Hein, donc, donné des dividendes, c'est la première fois depuis très longtemps, et des rachats d'actions. 50 centimes par action, bon, c'est pas beaucoup, mais si t'as beaucoup d'actions, ça fait des sous. Et puis, rachat d'actions, donc évidemment, les investisseurs aiment bien cette action-là. Bon voilà, Apple, Alphabet et Meta.
Il y a des choses à dire quand même.
Dis-nous.
Ouais, sur Meta, ça montre un truc. C'est que quand ils ont chouiné sur le fait qu'on limite le tracking des utilisateurs dans les apps, etc., sur iOS, que finalement, ça les empêchait pas de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'était que voilà, ça allait être très compliqué pour eux. Rappelez-vous, hein, ils allaient diviser par deux leur chiffre d'affaires, etc. Bon, voilà, le résultat est qu'en fait,
voilà, incroyablement, ils s'en sont sortis. Difficilement, ouais, tu vois, ils ont escaladé une montagne.
C'est adapté, c'est qu'à chaque fois... Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils se plaignent, je me dis est-ce que c'est légitime ? Voilà, bon, bref, ils gagnent plus d'argent. Il faut voir un truc aussi, c'est que bon, ils ont investi énormément dans le métaverse qui n'a pas bien marché. Je serais curieux de voir justement dans les mois qui viennent, parce que là, ils ont annoncé par exemple la compatibilité avec les photos 3D d'Apple, les Live Moments en 3D, etc. Là, je ne sais plus comment ils appellent, Memories, je ne sais plus quoi, là, qui sont dans le Vision Pro. Ils ont annoncé que justement le MetaQuest 3 était compatible avec. Donc, du coup, vous pouvez voir vos photos, j'allais dire dans la même qualité, pas vraiment, mais du moins, vous pouvez les exploiter, en tout cas. Le format
les photos
est exploitable.
Qui sont visibles en 3D sur l'Apple Vision Pro. Les Live Moments.
Ouais, les Live Moments, ouais, comment ça s'appelle, qui sont filmés avec l'iPhone 15 et qui utilisent plusieurs caméras pour donner cet effet de 3D, de profondeur.
Qui est très convaincant selon les premiers retours.
Ouais, tout à fait. Et donc, l'idée, en fait, c'est que même si Meta, au début, s'est moqué de Apple avec le prix du casque en disant « Nous, vous imaginez, on est à $500, ils sont à 3500 ». Les derniers commentaires de Meta, c'est plutôt « c'est vachement bien qu'ils s'y intéressent, ça veut dire qu'il y a un marché, qu'en fait, on était là et que du coup, il y a peut-être un truc à faire. » Et je pense qu'il y a aussi une partie des investisseurs qui disent « ah ben, regardez, Apple débarque sur le marché, ça veut dire qu'en fait, il y a un marché. » Et que là, depuis quelques années, on a perdu énormément d'argent, mais que finalement, on est dans la bonne direction et que tout ce qu'on a investi n'est pas complètement perdu. Et puis là, ils annoncent aussi un gros tournant, enfin Zuckerberg annonce un gros tournant sur l'AGI, hein, donc l'intelligence artificielle générale. Son but, c'est d'être le premier à produire ce truc-là. Donc là, ils vont lâcher un pognon de dingue grâce aux données qu'ils récupèrent grâce aux données récupérées sur Facebook. Oui. Et la pub qu'ils vous vendent, vous inquiétez pas, ils ont l'argent.
Ça n'étonnera personne, mais les discussions que font les présidents et les CEO avec les investisseurs, la manière dont ils envisagent les investissements pour l'année à venir, c'est 100% IA pour toutes ces sociétés. Hein, donc,
ce qui est intéressant avec Meta aussi, c'est de se dire quand même, on pensait que Facebook était mort et enterré et que bah, y a quasiment un humain sur deux qui utilise Facebook, enfin qui a utilisé Facebook en décembre. C'est ça qui est colossal, c'est de se dire finalement, juste Facebook, hein, c'est 3 milliards. Ouais. Donc, Facebook, en fait, bah, ils ne sont pas du tout morts, en fait. Et alors. Tu vois,
ça veut rien dire, ça, parce que, enfin, tu vois, moi, par exemple.
Je suis d'accord, parce que c'est comment tu définis un utilisateur actif, etc.
Ouais, parce que moi, j'y vais peut-être une fois par mois, tu vois, je regarde vite fait mes messages et ces conneries, mais c'est tout. Je me vois pas comme un utilisateur régulier de Facebook.
Tu as quand même un compte Facebook que tu utilises une fois par mois. C'est ce que décrit ce métrique, tu vois. Ils disent.
Oui, mais j'utilise pas l'écosystème Facebook. Tu vois ce que je veux dire?
Non,
tu postes rien.
Ma vie dedans, quoi.
D'accord, mais ils définissent utilisateur actif mensuel. On se doute bien que c'est pas des gens très actifs. Par rapport aux utilisateurs actifs quotidiens, on a quand même 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, tu vois. Si tu n'es pas satisfait par le chiffre mensuel, bah on est quand même à 2 milliards, 2,1 milliards quotidiens, ça va.
C'est colossal, en fait. On pensait vraiment ce réseau enterré et finalement, il n'est pas. Donc voilà. Sur Alphabet, ils ont tout fait pour qu'on utilise YouTube Premium, mais on va pas se mentir. Donc, entre les pubs non skippables, etc., que ça représente pas grand chose à l'année, ça ne m'étonne pas. Parce que,
15 maigres milliards de dollars. Pouf.
C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est que dalle. C'est même pas un trimestre
dans ma chaussure.
Non, après, on peut pas comparer les services entre Google et Apple pour une raison simple, c'est que. Chez Apple, dans les services, bon, il y a le stockage cloud comme chez Google et tout ça, mais il y a toute la partie fitness, Apple TV+, etc., qui n'existe finalement pas chez Google, en fait. Donc, c'est difficile de comparer deux choses qui ne le sont pas vraiment. Mais que YouTube rapporte autant d'argent, c'est déjà étonnant. C'est-à-dire que vraiment, on part d'un service qui vraiment était un gouffre financier. Qui avait peine à se retrouver à l'équilibre, etc., qui aujourd'hui rapporte de l'argent. Franchement, le YouTube payant, J'aurais pas misé dessus, en fait, avec tous les adblocks, tout ce qui existait pour contourner ce truc-là.
Maintenant, tu rajoutes suffisamment de pubs, tu finis par motiver les gens à payer. Hein, Attends, rajoute c'est encore ça. 30 secondes, là, ça va bien.
C'est soit ils partent, soit ils payent, ouais. Voilà.
Et comme ils n'ont pas vraiment de concurrence...
Exactement. En fait, le truc, c'est que comme la plateforme est hégémonique et qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas... Si tu veux voir une vidéo, tu vas pas sur Dailymotion, on va pas se mentir.
Donc généralement, c'est pas vers Dailymotion que tu te diriges.
Voilà, TikTok est sur un autre marché, donc du coup, tu peux pas. Enfin, voilà, et donc, t'es tout seul, tu fais ta loi. Et voilà. Clairement, c'est ça, en fait.
Corben, quelque chose à ajouter Corben, sur
Ouais, non, mais moi, tous ces chiffres, là, ça m'évoque pas grand-chose, parce que c'est un peu abstrait.
C'est abstrait, hein,
milliards.
Je te rends compte, 23 milliards par mois, mais non, par trimestre, 15 milliards, ça veut rien dire.
Mais bon, je suis quand même content pour YouTube, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même forcé. Moi, j'ai résisté, j'ai pas pris l'abonnement, j'ai même pas de bloqueur de pubs.
C'est ça, moi non plus.
voilà, donc je m'en fous, je les pubs, j'attends, quoi. Mais voilà.
Moi, je suis abonné YouTube Premium. Et ça fait plusieurs années, et c'est en fait la plateforme que j'utilise le plus, de streaming que j'utilise le plus.
Oui. Et est-ce que tu en as pour ton argent avec le prix?
Ah bah oui. Non, mais, enfin, encore une fois, ça dépend du nombre de pubs qu'il y a, mais aujourd'hui, quand, pour une raison ou une autre, je suis sur YouTube sans mon compte, sans être connecté, et que je vois le nombre de pubs qu'il y a, mais c'est juste pas possible. J'arrêterai l'abonnement à genre 4 services de streaming différents avant d'arrêter pour pouvoir financer YouTube, tu vois. C'est vraiment inenvisageable, quoi.
Ouais. Et pour Apple, quand même, tu disais, je suis étonné que ça représente que 7% l'Europe et tout ça sur les services. C'est pas si étonnant parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a des pays dans lesquels Android
sur
est
l'App Store,
largement...
Hein, l'App Store.
Oui, oui. Mais en fait, la part de marché d'Apple... sur les devices, et pas, c'est pas comme aux États-Unis où il y en a un sur deux qui a un iPhone, en fait, tu vois. Donc, c'est pas étonnant. Si tu ramènes à la population, tu ramènes en plus à la part de marché, je suis pas étonné que ça rapporte, que ça représente que 7% pour Apple au niveau mondial.
Et pourtant, il me semble que la moitié des smartphones en circulation, je sais plus si c'est en France ou en Europe, c'est des iPhones, quoi.
Non, c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis, ils ont une plus grosse part de marché, mais ce dont on parlait, c'était le fait que, si tu parles de ce qu'on a évoqué dans l'émission, le fait qu'Apple était la société qui avait vendu le plus d'appareils, de téléphones sur l'année dernière. Mais évidemment, c'est la société qui a vendu le plus de téléphones. Il n'y en a qu'une seule qui vend des iPhones. Il y en a beaucoup qui vendent des Android. Donc, même s'ils ont vendu, si 20%
moi, je parlais
du marché...
D'utilisateurs.
Alors ça, Android, ça serait intéressant d'avoir le chiffre de la part de marché d'Apple en Europe.
L'année dernière, Android, c'était 70% en Europe. Et 30% pour Apple seulement, tu vois.
Ça doit s'expliquer, mais il n'empêche, 30%, aux États-Unis,
c'est
peut-être.
Pas encore,
aux États-Unis,
l'Amérique
c'est peut-être 50.
81 à 90%.
Oui, mais dans quelle autre région est-ce que Apple a une part de marché plus importante qu'en Europe? Parce que si on parle des autres régions du monde, alors bien sûr, il y a, je ne sais pas, le Japon, mais on commence à parler de régions où il y a des revenus moins importants. Et donc, traditionnellement, l'image qu'on a, c'est que les parts de marché d'Apple sont plus importantes dans les marchés riches, dans les pays les plus riches. Et quand on parle des pays les plus riches, c'est États-Unis, Europe, Japon. Voilà. Et donc, clairement, je doute qu'ils mentent sur ce chiffre. Donc, ça doit s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est juste surprenant, je trouve.
Ouais, là, ce qui est étonnant, c'est que... après, il faut voir la masse. Hein. Les États-Unis, c'est un grand pays. Et si tu imagines que là-bas, il y a déjà un utilisateur
de
smartphone sur deux...
À chaque fois que tu fais un pouce vers le haut, ça met ton Apple met un petit pouce vers le haut. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Non, je le désactive.
Non, c'est tout mignon. Mais aux États-Unis, il y a moins de personnes que dans l'Union européenne. Hein. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 350 millions, à peu de choses près. Donc, cet argument-là, pour moi, ne tient pas. Donc,
Je ne sais pas.
Inhabitants, je crois que c'est 450 millions, non ? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, 448 millions. Donc.
OK.
Bon, écoutez, voilà pour les chiffres. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et on va conclure ces trois sujets importants de la semaine avec, on est obligé d'y passer, l'Apple Vision Pro, qui est sorti il y a quelques jours de ça aux États-Unis. Je vous mettrai dans la newsletter le lien vers la vidéo de Marques Brownlee, qui est, je pense, j'en ai vu beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles, je pense que c'est la plus intéressante de toutes celles que j'ai vues. En fait, la chose que je voudrais couvrir, c'est plutôt ce qu'on pense de l'appareil dans le contexte de l'intention qui semble être le début de quelque chose, et en même temps d'essayer d'analyser si ça fonctionne en tant que tel aujourd'hui, mais donc, comme je le disais aussi, ce que ça pourrait donner à terme. Je ne vais pas tellement parler de l'impression de l'appareil, je suis sûr que tous les gens qui écoutent l'émission ont lu, ont vu de quoi il s'agit. Je vais résumer très rapidement, mais ne nous attardons pas trop longtemps là-dessus. En gros, l'Apple Vision Pro, casque de réalité virtuelle sur le papier, mais concrètement vendu comme un appareil qui est de l'informatique spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'informatique spatiale ? C'est une nouvelle plateforme informatique, selon Tim Cook et selon Apple, qui veut se différencier des casques de réalité virtuelle qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose derrière ? Moi, j'ai l'impression que oui, on pourra en discuter. Ce n'est pas juste un truc marketing, même si ça joue aussi, et c'est pour se différencier. Mais donc, c'est un casque qui est parmi les plus autonomes. On a quand même un pack de batteries derrière, mais ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'on va être vraiment focalisé sur l'idée d'offrir une interface graphique d'informatique, comme avec un ordinateur, comme avec un téléphone, une interface graphique pour, entre guillemets, travailler gestion des fenêtres, clavier, interaction avec l'OS. Là où, avec les autres appareils du type, on a généralement une petite interface simpliste pour lancer des applications. Je simplifie un petit peu, mais en gros, c'est ça. Là, on doit, dans les autres appareils, on a des applications qui sont à usage unique, en gros. Comme sur un smartphone, on va lancer l'application et elle va occuper tout votre espace. Avec l'Apple Vision Pro, on est plus dans une optique d'ordinateur classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une interface graphique avec de la gestion de fenêtres, agrandissement, placement quelque part, etc. Les impressions sont donc que, techniquement, on est vraiment un cran au-dessus de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Comme souvent, quand Apple arrive sur un marché, ils font les choses quand le marché est mûr et ils perfectionnent la technique à la fois pour le matériel et pour le logiciel. Le consensus, c'est qu'effectivement, on a une perfection technique qui est indéniable, à la fois pour l'écran, la manière dont les fenêtres sont ancrées dans la réalité, c'est-à-dire qu'on a, vous le savez, mais on a, quand on met le casque, on est complètement isolé, mais on a une reproduction de notre environnement, donc on voit la pièce autour de nous, et on peut y placer des fenêtres. Les fenêtres sont ancrées et ne bougent pas. Et ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas bien quand on voit les expériences filmées à travers le casque, mais dont tout le monde parle. On dit la manière dont les fenêtres sont accrochées, par exemple, au mur ou ou au bureau, ou vraiment dans l'espace réel, est impressionnant. Pareil avec le logiciel, tout est bien fini, tout est bien conçu, tout fonctionne. Là où c'est un petit peu moins convaincant, c'est avec les yeux qui s'affichent sur le devant du casque pour mettre une connexion humaine entre la personne qui porte le casque et les personnes qui la regardent. Les yeux, on ne les voit pas bien. Il y a une surface lenticulaire qui est censée donner cet effet de profondeur. En fait, ça ne marche pas bien. On ne voit pas bien les yeux de la personne qui porte le casque, donc ce n'est pas super pratique. Et puis l'autre chose, c'est dans les appels FaceTime, on a une sorte d'avatar qui est créé en 3D, en scannant notre visage pour pouvoir afficher aux personnes qu'on appelle le visage de la personne comme si elle parlait avec un téléphone en face d'elle. Et bien là, les avatars créés, ils sont un petit peu bizarres. Alors oui, ils sont parmi les plus impressionnants qu'on ait vus jusqu'à maintenant. Mais en même temps, ils sont dans cette vallée de l'étrange où ils sont très impressionnants techniquement, mais pas suffisamment impressionnants pour être vraiment réalistes. Et donc, les cheveux sont figés, les visages, les expressions ne sont pas tout à fait adaptées, etc. Donc, ça devient un peu bizarre. Donc ça fonctionne moyennement. La grande question qui se pose au final, c'est tous les gens un petit peu honnêtes admettront qu'il s'agit d'un prototype et d'un prototype qui a des implémentations technologiques intéressantes, enthousiasmantes, Mais la question, c'est est-ce que les usages vont émerger de cette construction technologique ou pas ? Et là, ben, on ne peut pas vraiment en être sûr. C'est de la spéculation, mais on ne peut pas vraiment en être sûr. Et je suis curieux, du coup, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je suis curieux, du coup, de savoir ce que vous en pensez. Corben, peut-être, tu es le chef de l'Internet, tu aimes la technologie. Est-ce que tu le vois comme quelque chose qui est de la catégorie des iPhones qui ont révolutionné les smartphones, même si les smartphones existaient depuis longtemps, comme les iPods qui ont révolutionné les lecteurs de MP3, même si les MP3 existaient depuis longtemps, etc. Ouais. Ou est-ce que... Bon,
franchement, alors j'ai bien suivi quand même parce que ça m'intéresse. Je trouve que c'est un beau projet. Après, moi, j'avais déjà testé des Oculus, etc. J'ai toujours été un petit peu déçu. J'ai même testé le HoloLens, etc. Donc, ce genre de truc, je connais. Donc, mais là, j'attends de tester parce que tout le monde a l'air vraiment de dire que c'est merveilleux. Mais il faudrait que je le mette. En fait, je m'enflamme pas sur les démos. Je m'enflamme pas sur ce que je vois parce que c'est impossible à retranscrire en vidéo. Donc, même les tests, etc., c'est impossible. Donc j'attends de le mettre pour vraiment me prononcer sur le truc, en tout cas sur cette V1. Mais moi, je trouve ça pas mal. Alors après, j'ai toujours bien aimé les casques un peu comme ça, je trouve ça sympa. Même si le défaut, effectivement, c'est que ça isole. Je ne sais pas si c'est le futur, mais disons que c'est une autre façon de faire de l'ordinateur, en gros. Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour moi, ce n'est pas une tablette, ce n'est pas un iPhone, c'est plutôt un desktop. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu vas te poser avec ton casque. Et puis oui, tu vas peut-être pouvoir bosser avec un petit clavier devant toi, il n'y aura rien sur ton bureau ou tu n'auras pas besoin d'installer je ne sais pas combien d'écrans et compagnie. Donc il faut voir en fait sur l'usage plutôt, je verrais plutôt pro. Après l'usage un peu divertissement cinéma, c'est vrai que c'est sympa, t'es dans ton appart et là tu peux avoir le grand Rex chez toi. Pourquoi pas, mais t'es un petit peu coupé si, des autres gens, si tu veux regarder un film avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que moi, j'ai un vrai Projo et un grand mur, donc je n'ai pas besoin d'être au grand axe. Mais si tu veux, voilà. Après, il faut voir la qualité. En fait, c'est toujours pareil. Je sais que c'est des lentilles 4K, je crois. Enfin, les écrans
à l'intérieur sont... La qualité est très bonne. C'est l'une des autres, bonne, l'un des autres éléments sur lequel s'accordent les gens, c'est que la qualité de l'image est très bonne. Et
sur les Oculus, c'était merdique, quoi. Enfin, donc, bon.
On commence maintenant à arriver à une qualité impressionnante, enfin acceptable sur les casques concurrents. Mais oui, Apple a fait, bon, bah pour $3,500, évidemment, il faut quelque chose de qualité. Ouais. Mais on est effectivement au meilleur. Et d'ailleurs, leur production est contrainte par ce que peut produire Sony au niveau des écrans, les quantités qu'ils peuvent produire.
J'ai lu une analyse assez intéressante de quelqu'un qui disait par rapport au form factor de l'appareil. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un iPhone, le premier iPhone. Il est bizarre, il est un peu épais, voilà, etc. C'est le premier. Pareil pour les iPads, les Macs, et ce que tu veux. Chez Apple, pareil pour l'Apple Watch. Mais là, en fait, on a un form factor que le mec estimait bizarroïde parce qu'on était sur un espèce de casque. Et en fait, il se demandait ce que ça allait devenir après. Est-ce que il va maigrir ? Est-ce qu'il va grossir ? Parce que, en fait, le but ultime de ce genre de truc, enfin, en tout cas, ce que les geeks aimeraient, c'est soit tu mets des lentilles. Toi, tu as des lunettes comme des lunettes de soleil ou des lunettes classiques qui pèsent rien sur ton nez et puis tu as tout dedans. Je sais pas, enfin, tu vois, et du coup, il parlait de ça. Il disait que le form factor là, du gros casque qui t'englobe la tête, si ça reste, ça va être un peu bizarre quoi, au bout d'un moment. Donc, il se demandait pourquoi, enfin, le mec expliquait qu'il avait l'impression que Apple avait lancé un proto en fait, un espèce de proto,
c'est un peu...
mais qui n'évoluerait pas plus dans sa forme actuelle en tout cas. En attendant peut-être à un moment de sortir un nouveau produit qui sera, je sais pas, des lunettes, des lentilles, un truc vraiment du futur, quoi. Mais bon,
bah, on verra. C'est effectivement un élément qui est pour moi absolument essentiel parce que l'idée de ce casque, c'est clairement d'être un... On n'est pas à l'état de prototype non plus, mais c'est une version, un kit de développeur, on va dire. Ils ont... travailler sur ce prototype pendant très longtemps, enfin sur cet appareil pendant très longtemps, mais on se doute bien que à terme, l'idée serait, je pense, dans un premier temps, d'avoir un Apple Vision peut-être l'année prochaine qui coûterait, je ne sais pas, $2,000, qui n'aurait plus cet écran lenticulaire sur le devant parce que bon, ça ne sert pas à grand-chose de toute façon. Peut-être des audiopods, la sortie son de moins bonne qualité, là ils disent tous qu'elle est de super bonne qualité, mais donc de moins bonne qualité, et puis on utiliserait nos AirPods, hein, ça serait plus simple parce que tout le monde a des AirPods de toute façon, donc le vendre $2,000 peut-être, et le démocratiser un tout petit peu. Mais à terme, l'idée serait d'avoir un form factor de plus en plus léger, peut-être même à terme une visière comparable au HoloLens, mais qui fonctionnerait beaucoup mieux. Et le but, je pense, est d'explorer ce potentiel futur. Là où c'est différent avec ce que fait généralement Apple, c'est que le produit qu'ils sortent est utilisable et convivial, et les usages sont définis assez vite quand le produit est sorti. C'est moins le cas pour l'Apple Watch, même s'il y avait des usages précisés avec l'Apple Watch. Là, on a l'impression qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert et les quantités de produits vendus sont limitées. Je pense que c'est une erreur, à mon avis, de juger le produit tel qu'il est aujourd'hui. Il faut le voir comme un potentiel pour les 5 années à venir. Et ce potentiel pourrait être nul. Il est tout à fait possible que, bah, au final, ça ne fonctionne pas, ça ne soit pas intéressant et que ça ne prenne pas et ça ne trouve pas d'usage. Mais l'enterrer aujourd'hui... Enfin, je ne sais pas combien de personnes j'ai entendu sortir des arguments qui auraient pu être copiés-collés des discussions qu'on avait sur les iPhones, sur les iPods, sur les... Ah bah oui, mais oui, on fait ça depuis des années. Ah, mais ça existe depuis longtemps. Ah, mais c'est trop cher. Ah, mais c'est... Mais j'ai l'impression que les gens
Moi, je trouve ça très cool. Je ne l'enterre pas du tout. Je trouve ça très, très cool. J'ai envie de le tester. Je n'ai pas envie de l'acheter parce que je pense que cette V1, elle n'est pas encore aboutie. Il va y avoir des défauts de genèse, des trucs comme ça. Mais potentiellement, pour une V2, voire une V3, si demain, tu me dis ça remplace ton iMac et tu vois, tu n'as plus besoin d'écran, quoi. Tu as un bureau tout vide et tu mets ça et tu bosses là-dedans. Bon, il faut voir après le poids, la chaleur et ces petits détails-là, on va dire. Mais c'est le genre d'outil que moi j'apprécierais, quoi. Surtout qu'on peut voir le monde extérieur, c'est-à-dire que t'es pas obligé, et puis peut-être entendre aussi le monde extérieur, parce que sinon ces casques-là, t'es quand même enfermé, t'es dans une bulle. C'est-à-dire quelqu'un sonne chez toi, tu sais pas, ça pourrait prendre feu, à part l'odeur, t'as rien qui t'alerte, quoi. Donc si tu veux, voilà, il y a ça. Bon, voilà, on verra. Mais sinon, ouais, moi je trouve ça vachement bien, quoi.
C'est intéressant. On a aussi une vidéo de Nicolas Lelouch de Numérama qui est allé aux États-Unis pour l'acheter, qui est très intéressante sur l'usage également, que je vous recommande d'aller voir. Cédric, est-ce que tu rêves d'utiliser ton Apple Vision Pro dans ta Tesla, comme on a vu certaines vidéos?
J'ai pas de Tesla.
Ah, malheureusement. Il y a eu beaucoup de vidéos, non, justement, d'abrutis qui font le buzz avec le Vision Pro dans le métro, ou le type qui sort de sa Tesla et qui se met à faire des mouvements ridicules. Bon, c'est vraiment... On est vraiment... Comment dire pour illustrer vraiment de la meilleure manière que je puisse cette période du Vision Pro, on est dans la période, l'équivalent pour l'iPhone, dans la période du coussin péteur. Vous vous souvenez, quand les iPhones venaient de sortir, il y avait plein de gens qui faisaient des apps débiles, et il y avait évidemment l'app du coussin péteur. Et on était vraiment, au début, dans ces expérimentations ridicules. Et pour moi, dans le Vision Pro, on est en train de les développeurs et les utilisateurs vont se l'approprier, essayer de voir si ça sert à quelque chose. Mais à ce stade, c'est vraiment la période du coussin péteur, quoi.
Donc, et de l'application, là c'est surtout l'application I Am Rich. De...
qui, ouais, ça faisait quoi? Mais... Ah oui, qui se vend, quelqu'un qui l'avait vendu à.
Ils en ont vendu
à
10 000
dollars, I Am Rich. C'est Apple qui dit I Am Rich, là, effectivement. Cédric, que penses-tu de tout ça?
Ouais, pour moi, c'est pas vraiment le moment du coussin péteur, parce que le moment du coussin péteur, il est arrivé avec iOS 2, donc quasiment 9 mois, un an après.
C'est pas faux.
Mais je vois l'idée. Non, en fait, pour moi, ce qui m'a le plus surpris, j'ai regardé énormément de vidéos, y compris les vidéos des gens dans le métro, etc. Enfin, voilà. Ce qui, moi, m'a impressionné, c'est que... Et d'ailleurs, Apple a voulu nous vendre le iPhone Moment avec ce casque.
Qu'est-ce et que en c'est fait... cringe.
Ouais.
Le moment où le premier acheteur sort du magasin Apple Store
Non, le pardon. iPhone Moment, c'est le moment où l'iPhone est sorti et où, quand les gens l'ont pris en main, ils ont compris que les choses seraient plus jamais comme avant. Mmh. Et c'est, alors, ils le marketent, comme on veut et tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, la première fois que vous avez pris un iPhone dans les mains, moi, je m'en rappelle très bien parce que j'avais fait venir des États-Unis, etc. Mmh. Et quand j'ai utilisé mes deux doigts pour zoomer sur une photo, là, j'ai dit « waouh ». Et en fait, on n'avait jamais fait ça avant. Enfin, aujourd'hui, ça paraît ridicule. Je vous jure, ça paraît ridicule. Mais cet iPhone Moment nous a fait oublier à quel point il était nul, le premier iPhone. C'est-à-dire que il était en Edge, il y avait une application Google Maps, mais sans GPS, bordel, alors que tous les concurrents avaient un GPS. On se géolocalisait avec du Wi-Fi, je ne sais pas si vous vous souvenez le truc, c'était lunaire, il n'y avait pas de guidage, il n'y avait pas de MMS, tout ce que vous voulez, il n'y avait pas d'app à installer. On était vrai, mais l'iPhone Moment, c'était ce truc où on sentait quand même qu'il y avait un potentiel énorme de changer un truc. La techno était là. Et en fait, on est exactement dans ça, c'est-à-dire que c'était des usages du futur, le pinch, le zoom, machin, etc., avec la technologie actuelle. Et là, en fait, on est pile là-dedans. C'est les usages du futur avec du matériel actuel.
Donc, c'est pas la période du coussin Peter, c'est le potentiel du coussin Peter, en fait. Exactement. Là, on est un petit peu... C'est ça.
Exactement. C'est ça, ouais. Pile là. Et en fait, on est vraiment dans ce moment où tous les gens qui l'ont utilisé se disent « Ok, il va y avoir un après Apple Vision Pro ». Alors qu'il y a eu des Oculus, comme tu disais, moi j'ai testé même le MetaQuest 3 et tout ça, mais on voit les pixels, on voit qu'on est face à des écrans. Alors que là, a priori, ce n'est pas le cas avec le système de lentilles, etc., qu'ils utilisent, les écrans haute résolution et ainsi de suite. On a la sensation que c'est la vraie vie. C'est-à-dire, quand je regarde mes mains, je vois des détails de ma main, c'est légèrement flou, mais on n'est quand même vraiment pas du tout dans la même expérience. Et comme tu disais, Corben, si justement... On ne sait pas comment va évoluer le matériel. Est-ce qu'il sera plus fin? Est-ce qu'il sera plus petit? Est-ce que ce sera des lunettes transparentes? Mais en fait, là, ce que Apple fait, c'est qu'il teste les usages, en fait, avec les technos du moment. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle, on ne peut pas faire mieux que ça pour obtenir ce résultat-là. Et c'est là où, en fait, on touche à l'iPhone Moment. C'est l'expérience prime sur le matériel. On a l'air très con avec ce casque énorme de ski. Il y a plein de trucs qui sont cringe, etc. Les cringe-moji, comme moi je les appelle, vraiment les avatars, là, c'est pas les mimoji, c'est vraiment les cringe-moji. Ouais, parce que c'est hyper étrange la façon, ces graphismes PS3, ils nous disent avec une texture appliquée dessus, c'est hyper strange. Mais on est vraiment on peut pas faire mieux que ça aujourd'hui avec ça, avec la techno qu'on a. Par contre, regardez demain, quand on aura miniaturisé, quand on aura peut-être, comme tu disais Patrick, fait des concessions, c'est-à-dire la partie son, on n'aura peut-être que du stéréo basique et on mettra nos AirPods si on veut du spatialisé, tu vois. Et c'est là qu'en fait, on va toucher le mass market. Mais là, on est vraiment dans... Et rappelez-vous, l'iPhone, c'est lancement États-Unis seulement. On est vraiment pile sur la même démarche de lancement et d'apprentissage du marché, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'ils adoptent la même stratégie qu'avec l'iPhone en espérant que ça devienne l'iPhone, en fait.
Là où je dirais qu'il y a quand même une petite différence, pour commencer à se diriger vers la conclusion, c'est que je trouve que l'iPhone était, malgré ses défauts, quand même un peu plus abouti que ne l'est l'Apple Vision Pro aujourd'hui. C'est-à-dire que Tim Cook et les équipes d'Apple ont fait le choix de commercialiser un appareil à une étape moins avancée de son développement, du développement de la technologie. J'imagine que c'est un calcul qui est savamment orchestré de leur part parce qu'ils se disent on est dans une expérience qui est moins contenue tout en un et on a besoin de développer un écosystème de développeurs et d'usages pour que le produit connaisse le succès dans une version 2 ou dans une version 3. Mais je trouve quand même que l'Apple Vision Pro, à ce stade, est moins attrayant, intéressant, convaincant que ne l'était l'iPhone à sa sortie. Bien sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être comparés. Par exemple, le fait de contrôler l'interface avec l'œil et le doigt en tapotant avec les doigts là où on regarde, beaucoup disent, par exemple, c'est fatigant. On ne se rend pas compte à quel point le fait d'associer, c'est ce que disait Marques Brownlee si je ne me trompe pas, le fait d'associer le contrôle de l'interface au regard est en fait fatigant parce que souvent, quand on utilise par exemple une souris ou autre chose, on bouge la souris, on ne regarde pas exactement l'endroit où on veut pointer le pointeur, où on peut le bouger un petit peu indépendamment. Là, c'est complètement associé. Donc tu vois ce genre de choses, mais disons, ça peut tout à fait évoluer, et c'est justement avec ces usages que ça va évoluer, mais je trouve que à ce stade, l'une des raisons pour lesquelles les gens semblent un petit peu plus dubitatifs, c'est que le produit est moins abouti, même si le premier iPhone, le premier iPod, ou même le premier iPad ou d'autres,
oui, mais...
étaient...
T'as qu'à voir le multi-touch qui n'est pas présent sur le clavier, par exemple, du Vision Pro. Tu tapes à un doigt ou tu regardes, effectivement, et tu tapes avec ton doigt la lettre sur laquelle tu as regardé. Effectivement, ce n'est pas hyper naturel. On va avoir des yeux bodybuildés. Mais par exemple, la page d'accueil où tu ne peux pas réorganiser les icônes,
oui.
Ça rappelle diablement ce qu'on avait sur l'iPhone 1, le premier logiciel pas sec, etc. Il y a des choses qui vont être corrigées par le logiciel, c'est évident. Même le coup de pointer les yeux, peut-être que ça fera comme sur iPad si vous l'avez utilisé avec une souris, c'est-à-dire que dès que vous approchez d'une icône, hop, ça englobe l'icône. Même si vous n'êtes pas pile dessus, etc. Bah, sans doute que ce sera pareil avec la partie vision. Mais ouais, et là, je vous rejoins complètement. C'est un truc qui est d'abord fait pour des devs, pour des early adopters qui vont... répandre la bonne parole, qui défrichent les usages en fait finalement de l'informatique spatiale. Est-ce que demain ça sera un standard? Est-ce que demain on l'utilisera tous? Est-ce que on n'en sait rien? Et autour de la table là, personne ne peut dire demain. Oui, bien sûr. C'est comme les iPhones, tout le monde en aura un sur la tête. Bah non, en fait, personne.
Mais
ne peut faire ça.
Pour les gens qui ont jamais testé de casque comme ça, un peu de réalité virtuelle, c'est quand même une sacrée expérience, quoi. Quand t'es plongé dans un monde à 360, vraiment, c'est un truc de fou, quand même.
La qualité est bluffante, les temps de réaction sont bluffants. Oui. Ils ont même anticipé le problème du motion sickness, ce que les autres n'ont pas trop fait, en expliquant que pour éviter le motion sickness, n'approchez pas trop près de vos fenêtres, etc. Fixez le décor autour de vous. En gros, que la vision périphérique soit pas complètement obstruée si vous êtes souffrez de motion sickness. Mmh. Ils ont anticipé ce genre d'écueil.
C'est une vraie question, moi, que j'ai pas vue. Pour des gens qui ont des lunettes de vue, par exemple, c'est réglable?
Tu peux faire des lentilles spécifiques à ta vue.
À 400 boules ou un truc du genre.
Enfin, non, c'est moins que ça.
Non,
c'est pas 90.
J'exagère. Mais tu fais des lentilles qui sont aimantées, qui se posent dessus et qui sont spécifiques.
Oui, c'est aimanté en plus. Clac. Mais je crois que c'est 90 $, ouais. C'est du size et ils font le truc à ta vue.
Donc, ce qui reste au final, à mon sens, c'est que d'une part, les gens qui vous disent que ce n'est pas un produit innovant parce que Meta a déjà fait un casque de réalité, enfin que Oculus a déjà fait un casque de réalité virtuelle, ne comprennent pas ce qu'est le Vision Pro. C'est pas la même chose. Ça utilise la même technologie, évidemment, mais c'est pas la même chose, de la même manière qu'on a eu l'iPhone. C'était pas un BlackBerry.
Ah, c'est des écrans capacitifs au lieu de résistifs, etc. À la fin, ça ressemblait aux autres, mais c'était pas la même chose.
C'était pas la même chose. Je pense que là, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a évidemment des points communs, et ça veut pas dire que, au-delà du succès, la question du succès est presque parasite la conversation. Au-delà du succès, ça ne veut pas dire qu'on trouvera des usages. Et c'est ça qui est important. Et ça, comme tu le dis, Cédric, personne ne peut le prédire. Personne. Que ça soit aussi impressionnant qu'on veut, que ça soit aussi intéressant qu'on veut, ou aussi ridicule qu'on veut, on ne sait pas du tout s'il y aura des usages qui en feront un succès ou pas.
Bah, là où Corben a quand même une piste, c'est sur la partie pro, hein, le fait de se dire... avec juste mon laptop, j'ai du multiscreen et des écrans géants partout pour augmenter la productivité en entreprise. Là, pour le coup, moi, je suis... Enfin, le seul usage qui, moi, aujourd'hui, me convainc un peu, c'est celui-ci. Le reste, pour le moment...
Ouais, peut-être. Enfin,
Le reste, c'est du divertissement, quoi.
Exact.
Je suis d'accord, Et c'est là, encore une fois... alors oui, on peut avoir une sorte de simili desktop avec certains casques. C'est pas comme ça. Là, c'est vraiment pensé pour ça.
Ah oui, non.
Disons que... La condition préalable au fait que ça devienne intéressant pour un usage professionnel vraiment de les écrans partout, etc., il faut que le casque soit plus léger et mieux sur la tête. Parce que ça, c'est un problème qui, à mon sens, rend impossible une utilisation prolongée de plusieurs heures au bureau. Si on parle d'utilisation bureautique classique, il faut que les casques deviennent beaucoup plus légers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et tout à fait possible, hein, mais ça sera important.
De toute façon, l'année prochaine, on a tous notre Neuralink, comme le dit Pascal.
Ah oui,
dans le chat.
C'est...
Ah bah oui, voilà.
Enfin, l'Apple Vision Pro, c'est complètement ridicule.
Mais ça, c'est une technologie du futur avec des usages du passé. Vous voyez, contrôler son smartphone en Bluetooth, finalement, on le faisait déjà avec plein d'autres périphériques, mais on utilise une techno du futur dans le cerveau. Enfin, c'est l'inverse, en fait, la démarche.
Ouais.
Donc voilà pour notre... On parlera encore de l'Apple Vision Pro. Hein. Finalement, on en a parlé un petit peu plus longtemps que prévu. Mais on le fera encore, je pense, régulièrement dans l'émission. Et oui, forcément, on verra où ça va. Soyez prêts. Les Patriotes ont des time codes dans les notes de l'émission. Donc, si vous souhaitez sauter la partie Apple Vision Pro parce que vous en avez déjà marre, eh ben, vous pouvez soit faire clac, clac, clac plein de fois, ah merde, ils en parlent encore, là, ou alors devenir Patriote et avoir les time codes pour aller directement au sujet qui vous intéresse ou sauter les sujets qui vous intéressent. Donc, c'est un excellent moment pour vous rappeler que vous pouvez devenir Patriote et soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Il y a des gens qui le font depuis déjà 10 ans. Il y a des gens qui s'étaient abonnés il y a 10 ans et qui le sont encore. Donc, ils sont plus nombreux. Hein. Je vous avoue que généralement, il y a pas mal de gens qui quittent chaque mois. Donc, c'est important pour ça aussi que...
Et ils vont en EHPAD.
Ils en aient de nouveau. Ils n'ont plus le contrôle. Sur... Non, mais tu sais, les cartes bleues sont plus valides au bout de quelques années. Et donc, les gens qui s'abonnent automatiquement ont un désabonnement inclus. Donc, tu vois, les gens qui sont là vraiment depuis tout ce temps, ben, c'est parce qu'ils ont renouvelé. Mais oui, donc, il y a des gens qui, en plus, arrêtent leurs abonnements tous les mois. Donc, il faut, pour maintenir le succès du Patreon, que de nouveaux rejoignent le Patreon. Donc, si vous appréciez l'émission et vous appréciez le ton et la manière dont on traite les sujets, vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et vous aurez l'émission sans pub, les time codes, des bonus avec les after shows, des éditos, la newsletter un petit peu agrémentée de liens supplémentaires intéressants, etc. etc.
Et le plus important, Apple Vision Pro offert.
Un Apple Vision Pro offert pour 250 ans d'abonnement ininterrompu. Franchement, moi, je pense que ça vaut le coup. Hein.
Patrick, tu vas bénéficier, comme pour les retraites, du réarmement démographique. Et ça, c'est plutôt intéressant.
Alors, comme pour les retraites, tu veux dire qu'il y aura de futurs abonnés qui vont être...
Voilà.
Mais tout à fait, c'est très important. Je ne sais pas si d'ici à ce qu'ils soient en âge de soutenir le rendez-vous tech, les enfants du réarmement, l'émission existera encore, je ne sais pas. Bon, écoutez, on vient de faire 10 ans. Mon but, là, c'est de faire 10 ans de plus. Et pour ça, j'ai besoin de vous, patreon.com/rdvtech. Évidemment, le plus important, c'est que vous avez la fierté, le bonheur, la joie de soutenir une émission et un créateur que vous appréciez. Merci à tous et à toutes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec le reste de l'actu. Quelques petites informations plus rapides. D'abord, la fusée SpaceX a signé un contrat avec Starlab. C'est quoi Starlab ? C'est une société privée qui développe, enfin c'est une société privée, c'est Voyager Space et Airbus, hein, donc c'est des grosses boîtes, mais ils développent une station spatiale privée, la première station spatiale privée, et elle sera transportée dans l'espace par la fusée SpaceX. Là où c'est vraiment intéressant, c'est la station spatiale privée, en fait, qui devrait être envoyée dans l'espace, alors c'est pas pour tout de suite, hein, c'est 2030, elle devrait être prête en 2026, c'est ça ? Non, qu'est-ce que je vous dis une bêtise ? Je ne sais plus, c'était 2030 ? Je ne sais plus. Dans quelques années, elle sera envoyée. C'est ça. En vol de Starlab pour 2030, selon l'article de Numérama. Donc 2030, ce n'est pas pour tout de suite. Et elle fait, je crois, la moitié de du volume de la Station Spatiale Internationale. Donc ce n'est pas rien, mais elle est en un seul module. C'est vraiment intéressant de se dire, bah, on va commencer à avoir des stations spatiales privées dans l'espace. Et on me dit dans la chatroom, c'est le début de For All Mankind, un petit peu. C'est un petit peu ça.
Ouais.
C'est fou, quoi. Des stations spatiales privées dans l'espace. Cool.
On n'ira jamais, on n'aura pas assez de sous, mais c'est trop bien. Sauf si Free lance sa station spatiale. Et là, on pourra peut-être... Mais bon, voilà, j'espère que...
Ouais, je ne sais pas si je mettrai ma sécurité dans les mains de Xavier Niel avec ça.
Bon. Ah bah voilà, tout de suite. Hein.
Ouais. En même temps, il y a bien des gens qui mettent leur sécurité dans les mains de Elon Musk. Donc, pourquoi pas, hein. Oui. Gemini Pro, l'IA de Google arrive en Europe. Enfin, est arrivé en Europe. Donc, si vous voulez une alternative à ChatGPT, ça y est, c'est disponible. Vous pouvez avoir Bard, le Gemini dans l'Union européenne et y compris en France. J'ai testé un petit peu. En deux secondes, ça a pas l'air complètement incroyable ou différent. Ou moins ou plus capable que ChatGPT. Je ne sais pas si tu as testé. Toi, tu utilises beaucoup ChatGPT, Corben ?
Ouais, alors j'ai testé Bard, j'utilise, mais là, du coup, la version Gemini, je ne sais pas. Moi, tu vois, je vais sur bard.google.com. Et je
ah,
sais
bah là,
pas
depuis,
si...
depuis une semaine, c'est Gemini, normalement.
Ah, d'accord, mais ça ne se voit pas. Enfin, ils ne te le disent pas sur le site. Tu ne te rends pas compte. Non. Moi, en fait, Bard, je vais te dire comment je l'utilise quand c'est vraiment en mode brut. C'est-à-dire que quand j'ai de la grosse doc bien balèze à lui faire traiter, que je n'ai pas envie de la lire et que ça me saoule, je lui demande de l'analyser ou de refaire un truc à partir de ça. Quoi. Mais,
donc, tu fais un copier-coller dans Bard et
et je lui dis de rebosser le truc, mais il y a moins le côté créatif de ChatGPT qui peut être plus sympa. Donc, ce n'est pas le même usage pour moi. Là, c'est vraiment pour retravailler des trucs plus techniques.
Et il y arrive mieux que ChatGPT, selon toi ?
Ouais.
D'accord.
Parce que ChatGPT, il va pas tout traiter. Il va oublier des trucs ou alors il va taper à côté de la plaque parce que voilà, il va moins coller en fait à ce que tu lui donnes. Et Bard, il colle plus. Donc, c'est moins créatif. Ça s'en va moins loin que ChatGPT en termes de...
Oui, c'est plus pragmatique. Tu n'as pas besoin du côté brodé autour de ce que tu as fait. Tu veux un truc de la doc. Hein, donc, tu as besoin de l'info vérifiée juste. Bah, Bard est mieux pour ça. Ouais. Moi aussi,
parce que je fais souvent des tutos. Ça m'est déjà arrivé de lui donner une doc technique, en disant « Écris-moi un tuto ». Si je donne à ChatGPT, ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait surprendre. Il va m'inventer des paramètres au logiciel, des trucs de ligne de commande, des trucs qui ne sont même pas dans la doc que je vais donner. Quoi. Alors que Bard, lui, va vraiment coller à la doc et voilà.
Il y a une autre IA qui est intéressante, c'est celle d'Amazon qui s'appelle Rufus, qui est une IA pour le shopping, de manière pas très surprenante. Hein. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se dire, attends, ça sert à quoi d'avoir une IA sur Amazon, Amazon.com ? En fait, ils l'ont entraîné sur, évidemment, toute leur collection de produits et d'autres choses. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça intègre des choses qu'on faisait ailleurs à Amazon, comme par exemple des conseils pour comment bien choisir un produit. Quelle est la différence entre... L'un des exemples qu'il donne, c'est quelle est la différence entre différents types de chaussures. Moi, j'ai des chaussures de course, des chaussures de randonnée, des chaussures de machin. Quelle est la différence ? Comment se rendre compte de quels paramètres sont importants pour, j'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi, mais meubler un salon ? Il faut prendre en compte ceci, cela. Donc, ça intègre en fait des trucs de guide qui étaient externes, qui n'ont jamais été dans Amazon. Et avec cette IA qui a été entraînée sur, des vidéos YouTube ou des articles de blog ou ce genre de choses, je suis sûr qu'ils ont demandé la permission à tout le monde, ça amène dans Amazon ces éléments qui n'y existaient pas. Ça s'appelle Rufus et c'est lancé aux États-Unis dans leur app mobile depuis quelques jours. Ça arrivera ailleurs dans le monde, j'imagine, à terme.
Donc, il n'y aura plus besoin, par exemple, du site Les Numériques pour comparer...
Non, évidemment, ça fait pas tout. Hein. Je pense pas qu'il va vous dire. Je pense pas que c'est dans le domaine d'Amazon de dire quelle est la meilleure télé. Tu vois, c'est pas le genre de truc qu'ils veulent faire. Ils veulent pas que eux sélectionnent la télé pour leurs clients. Enfin, disent non, cette télé qu'on vend et notre client qui est très sympa, en fait, elle est pourrie. Donc, je pense pas que ça soit ce genre de choses qu'il fera. Mais oui, ça, certains domaines. Est-ce que vous connaissez le COSA, Kids Online Safety Act? Je vais vous en parler un petit peu parce que ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis et c'est dans un contexte qui n'est pas si loin de ce dont on commence à parler dans l'Union européenne également. C'est une série de lois qui vise à protéger les enfants dans leur exploration du net. L'un des trucs qui est intéressant, c'est que... Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très contre la manière dont cette loi a été écrite. Et je pense que c'est très spécifique aux États-Unis parce que ce que j'en comprends, moi, de la loi, c'est que ça impose aux réseaux sociaux notamment et d'une manière générale à l'infrastructure du net d'avoir des choses comme des contrôles parentaux, de la transparence sur le fonctionnement, de limiter ou de ne pas avoir de ciblage publicitaire pour les plus jeunes, etc., etc. Et la controverse, en fait, vient de du niveau de contrôle que ça donne au gouvernement et aux parents pour empêcher les enfants de voir certains contenus en ligne. Il y a beaucoup d'associations LGBTQ+, qui sont contre la loi parce qu'ils disent l'un des problèmes, c'est que les ressources qu'il y a sur le net sont un moyen formidable pour les enfants d'avoir des réponses à des questions qu'ils se posent, notamment sur leur sexualité, mais pas que. Et le fait de contrôler, de fermer les portes à tout ça, ben, ça peut créer énormément de problèmes parce que ben, ils ne pourront plus comprendre certaines choses qu'ils ressentent ou qu'ils voudraient explorer. Et évidemment, aux États-Unis, ça prend ce problème une tournure qui est beaucoup plus importante encore, puisque la binarisation de la vie politique aux États-Unis est très importante, encore plus qu'ici, mais également centrée sur ces débats de sexualité des adolescents, la nature du genre et leurs préférences, etc., etc. Et chez les Républicains, on est très, très remonté contre l'idée qu'on puisse présenter à des adolescents la possibilité qu'ils soient gays, lesbiens ou pire, trans. Et ça, c'est un vrai débat sociétal et une ligne de division très violente aux États-Unis, dans laquelle je ne vais pas rentrer. Il y a plein de problèmes de puberté, etc., qui rentrent en ligne de compte. Mais donc, cet ensemble de lois pourrait, selon ces associations, être utilisé pour justement contrôler ces éléments de la vie sociale des adolescents. Là où moi, je trouve ça intéressant, c'est que il y a évidemment, enfin, encore une fois, quand on connaît un petit peu la vie politique des États-Unis, c'est un problème évident, ce point que mentionnent les associations LGBTQ+. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est un revers de la médaille, parce que si on veut avoir... un petit peu. Ils sont très... Tous les débats que j'ai entendus, c'est genre « Ah, le gouvernement veut contrôler ce que peut voir le peuple. C'est un moyen de s'assurer qu'ils n'ont... on n'a pas le moyen de remettre en question, machin. » Ils sont très, très, très anti-gouvernement, basique, quoi, de manière caricaturale. Et ils font... Dès que le gouvernement propose quelque chose, du coup, ils font complètement fi de tous les problèmes que pose la navigation du net en ligne. Et ce qu'ils disent, oh, mais c'est très simple, il suffit que les parents apprennent à leurs enfants à ce qu'on a en ligne. Et donc, si on éduque bien les enfants, les parents éduquent bien les enfants et on ne donne pas ce rôle au gouvernement, tout va bien. Alors, comme s'il n'y avait aucun autre problème, tu vois. C'est leur solution pour s'assurer que vraiment, non, le gouvernement ne doit pas toucher. Alors, évidemment que les problèmes dont ils parlent sont réels, mais il y a aussi des problèmes à mon sens, des problèmes que pose le net aux enfants qui sont, je ne vais pas dire en dehors du contrôle des parents, mais pour lesquels les parents n'ont pas forcément les bons outils. La question du ciblage publicitaire n'a rien à voir avec les parents, etc., etc. Donc, pour moi, ils sont un petit peu en train, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et surtout, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, encore dans les images. Tu ne peux pas avoir plus de contrôle sur ce que disent, ce que disent et voient les enfants en ligne, le rejeter et puis ensuite dire « Ah, mais les grandes sociétés ne font pas assez pour protéger les enfants en ligne », ce que disent généralement les associations de ce type-là. Donc, il y a une sorte de, pas d'hypocrisie, j'irai pas jusque-là, mais une sorte de prisme par lequel est pris cette loi qui fausse son, son jugement, à mon sens. Et je le mentionne tellement, je passe tellement de temps là-dessus, parce que je sens que dans les mois et dans les années à venir, on va avoir le même type de débat chez nous, j'espère, avec un petit peu plus de mesures et de... parce que vraiment, là-bas, c'est comment dire, particulier. Mais voilà, je voulais le mentionner parce que... Et puis, il y a eu des moments abjects où l'un des sénateurs républicains demandait au président de TikTok, il dit « Est-ce que vous êtes affilié au parti républicain... au parti... pardon, au parti communiste chinois ?» Le type, il lui regarde, il le dit « Mais non, non, je suis de Singapour, monsieur le député. » Il dit « Ok, est-ce que vous avez déjà participé à une action militaire chinoise ?» Il dit « Mais... je viens de Singapour. Je ne suis pas chinois. » C'est, enfin, c'est vraiment... Bref, cet exemple a été beaucoup repris. Ouais, il y a beaucoup de performatifs aux États-Unis et ça a été l'occasion pour tous les gens qui n'aiment pas le gouvernement, les commentateurs, là encore, de faire un petit peu comme fait souvent Corbyn, c'est-à-dire de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire « C'est tous des pourris, de toute façon, les politiques, c'est des abrutis, ils comprennent rien, la loi, elle est faite pour si... pour... » et oui, évidemment, là, il y avait du performatif. Mais du coup, on oublie complètement qu'il y a des gens qui essayent derrière d'écrire des lois normales pour tacler un problème, tu vois, et qu'il y a des gens sérieux, compétents, qui essayent de faire les choses bien, quoi. Pardon pour le petit tacle, Corbyn.
Non, mais t'as raison. Moi, j'attends le contre-exemple. J'aimerais bien changer d'avis, mais j'attends encore. un jour, j'aurai... Un jour, peut-être que je verrai ce que tu dis.
Ouais. Je pense qu'on pourrait en parler un petit peu et je pourrais te convaincre, mais c'est pas le sujet de l'émission. Bref, je sais pas si vous avez pas besoin de commenter là-dessus, mais c'était un sujet important à mentionner parce que bah, ça rentre dans la mission de l'émission qui est comprendre le monde en comprenant la tech. Bah, là, on a un débat qui va arriver chez nous bientôt, je pense. On parle de Chine de temps en temps aussi. Hein. Il y a des managers de chez TikTok qui, visiblement, envoient des informations sur leurs utilisateurs à ByteDance en Chine directement, sans passer par
vois,
une structure.
Vous avez, est-ce que vous avez participé à une opération? Mais je suis singapourien. Ouais, mais j'envoie des données en Chine. Ah, bon, ok, alors. Voilà, ah, mais non, du coup.
Exactement. Non, mais c'est... Bon, bref. Les États-Unis ont ajouté encore une douzaine de sociétés sur la liste des... c'est quoi? C'est la entity list. Enfin, bref, des sociétés qui ne peuvent pas vendre au gouvernement... Enfin, à des sociétés chinoises. C'est marrant, il y a plein de sociétés... Je crois que j'en avais parlé. Plein de sociétés chinoises qui sont mises à acheter quelques dizaines de petits produits, de petites puces, tu sais, étrangement, là où ils n'en achetaient pas du tout avant. Et puis, Nvidia... à créer des puces spécifiques pour la Chine, qui s'appellent les H20, les puces IA, et qui sont plus puissantes que les puces Huawei, donc bref, pour se conformer aux exigences des États-Unis. La raison pour laquelle je l'évoque encore, c'est que, oui, ce combat commercial et technologique s'intensifie entre la Chine et les États-Unis. Pour le moment, ça ne va pas plus loin, moi, je pense que tout le monde s'en accommodera parce que, magie, l'un des avantages, c'est le commerce et personne ne veut aller tellement loin que ça provoquerait des catastrophes économiques et certainement pas en Chine non plus. Donc, chacun va juste assez loin pour pouvoir contrôler autant qu'il peut sans créer une catastrophe. A priori, ça se passe correctement. Moi, je ne fais pas partie des gens qui craignent la... Si la Chine commence à se diriger un peu trop vers Taïwan, ça sera une autre histoire, mais on n'y est pas encore. Et puis, puisqu'on parle de pays sympathiques, en Russie, il y a eu, il y a quelques jours, une panne complète d'Internet. Là, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe, machin ? Bah, il semblerait que ça soit lié à la transformation de l'Internet russe en Internet complètement contrôlé par, contrôlable
par le gouvernement. Mais non, c'est parce qu'il passe au 8Go et au Wi-Fi 7, t'inquiète. C'est un update.
Ils sont passés chez Free, donc...
Ouais. Là, il y a eu quelques moments de... C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a ces débats qui ressortent de oh, la Chine, la Russie ou l'Ukraine, machin, on a l'impression que les gens ne savent pas ce qui se passe en, en Russie, tu sais. Là, c'était un exemple de tout l'Internet est contrôlé par la Russie, mais enfin, il n'y a pas d'opposition politique, il n'y a pas de médias libres. Y a pas... Et donc, je ne comprends pas comment les gens disent « Oh, mais nous, enfin, la Russie et l'Ukraine, c'est un peu pareil, restons en dehors, machin. » Tu sais ce que c'est qu'un pays totalitaire ou pas Bref, bon.
Génial.
Non, mais c'est frustrant, vois-tu, c'est frustrant.
Oui, c'est frustrant.
Parce qu'il y a quand même, ces trucs, si tu veux, c'est des sujets qui ne sont pas controversés, quoi. Ce qui se passe en Russie avec un dictateur qui est là depuis 20 ans, qui est vraiment dictateur depuis quelques années, qui n'a pas d'opposition, ils se prennent tous des pots de fleurs en marchant dans la rue ou ils tombent dans les escaliers, tu vois, c'est pas... Bah, je veux dire, il y a pas beaucoup de débats sur la nature du pays.
Après, c'est le prisme des réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas, énormément de gens en ratio qui pensent ça, peut-être, à part certains qui rêveraient que ça soit la même chose en France. Mais voilà.
T'as pas de char à la frontière finlandaise, Patrick, tout va bien.
Ah bah écoute, les choses se passent. C'est un peu des chars, non, mais il se passe des trucs. Raspberry Pi, Pi. C'est Raspberry, non, Raspberry ou Raspberry Pi. Bref, le nom de la société, c'est bien Raspberry Pi. Hein. Ils entrent en bourse. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais Raspberry Pi entre en bourse. Est-ce que tu vas acheter des actions, Corben ?
Non, je ne pense pas. Mais... Je sais rien. C'est une bonne idée, peut-être. J'en parlerai à Jérôme.
Moi, je n'achète pas d'actions. Je me demande s'il ne faudrait pas que je revoie ma policy sur ce sujet. Je n'achète pas d'actions tech. Ma femme me demandait il y a quelques jours, elle me disait, mais si on avait de l'argent, est-ce qu'il faudrait acheter des actions tech ? Tu vois, toi, tu connais le sujet. Et j'y réfléchis. Bon, d'une part, j'en achète pas, c'est une sorte d'éthique journalistique, même si je suis pas journaliste, en me disant, bon, bah, ça fait un petit peu d'indépendance. Comme le fait que je dise à certaines sociétés qui veulent être sponsors de l'émission, je dis, bah, désolé, il y a quelques constructeurs de téléphones à qui je dis, ouais. J'aimerais bien prendre votre argent, mais non. Donc, Patreon, n'oubliez pas, c'est important. Mais sur les actions, j'y réfléchis et je me suis dit, mais je ne saurais pas, quoi. Je serais incapable de te dire quelle société ira mieux ou moins bien. Genre, Apple qui a 3 000 milliards, Microsoft qui a 3 000 milliards. Est-ce qu'ils vont monter à
4
quand ils étaient à 1 quand ils étaient à 1 milliard à 1000 milliards, tu sais, tu disais bon bah ils vont pas monter plus haut, ils sont à 3000.
Est-ce que c'est pour ça que le dieu de la bourse a inventé les ETF, ce genre de truc, les trackers, pour acheter des packs où tu sais même pas ce qu'il y a dedans et ça suit le cours du marché et c'est les Nasdaq et compagnie, quoi.
Ah bah oui, non mais bien sûr, enfin les ETF c'est voilà. Donc tu achètes des fonds indexés sur le CAC 40 ou pur machin et puis, évidemment, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais oui, mais à ce moment tu gagnes que 3-4% max par an.
Je peux te donner un conseil si tu veux, Patrick.
Moi je veux gagner 20% 30% doubler ma mise.
N'achète pas d'action Twitter et tu feras une affaire.
Bon, Twitter on peut plus maintenant, hein. Il faudrait aller dans les poches d'Elon Musk, mais bon. Oui, pareil, on me dit Nvidia dans la chatroom. Qui aurait pu imaginer que, enfin si, en suivant bien, on savait qu'ils faisaient de l'IA et puis ça peut-être, mais bon, bref, moi j'en suis bien incapable. Le marché de l'e-book a cru de 14%. Rien qu'au quatrième trimestre 2023.
Les actions Amazon.
Pourtant, avec tout ce qu'on pirate... Non, pardon, excusez-moi.
J'écoute tellement d'audiobooks sur Amazon. Mais tu sais, évidemment que le piratage...
Ah, t'as parlé d'e-book ou d'audiobook, là
Non, d'audiobook, pardon.
Ah, j'avais compris d'audiobook.
E-book. Ah, moi, j'ai compris aussi...
Ah, pardon, je m'ai trompé.
Les e-books.
Les audiobooks. Moi, mais c'est tellement simple avec l'abonnement Audible. J'en consomme... Tiens, j'ai lu récemment le No Rules Rule de Reed Hastings sur la culture de management chez Netflix. Hyper intéressant. Je pense que c'est le cauchemar de toute la gauche du monde entier. C'est du management, de la ressource des employés, les trucs de vacances ou pas vacances, machin. Tu lis ça, au début, tu te dis, mais si t'es un tout petit peu de gauche, tu fonds tellement ton cerveau est attaqué, quoi. Vraiment. Et je vous avoue que au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, oh, putain. C'est bon. Et en fait, c'est intéressant. Il y a des trucs à en tirer. Tous les trucs où tu dis non, mais là, tu peux pas parce que si, ils y ont pensé, ils ont arrangé le truc de manière à ce que limiter les risques, machin, c'est intéressant. Je sais plus qui me l'avait conseillé.
Qui veut un CDI chez Patrick ? Personne lève la main. Personne lève la main, désolé.
Non, mais franchement, c'est. Il y a plein de trucs intéressants. Bref. Il y a Il faut élargir ses horizons. Moi, jamais j'aurais pensé que ça serait intéressant, un truc comme ça, franchement. Trucs de management CEO, les gens qui se... Tu sais, qui se... Enfin bon, bref. Mais
t'as le temps d'écouter 5 ans, parce que moi, j'ai toujours des gosses dans les pattes, ou tu vois, des trucs à faire, j'ai pas le temps d'écouter des...
J'écoute en faisant d'autres trucs.
Grâce à son Vision Pro.
Moi,
c'est gosses, et en même temps...
Non, mais en faisant d'autres trucs, en faisant la vaisselle, en étant dans le bain, j'écoute... Tu sais, peut-être 20 minutes, 30 minutes par jour, en revenant d'avoir accompagné les enfants à l'école. 20 minutes, 30 minutes par jour, un livre qui fait 10 heures, en 20 jours, c'est plié. Hein, tu vois ?
C'est vrai.
Donc, c'est comme ça. C'est l'avantage des podcasts. Écoutez des podcasts. Non, pardon, les audiobooks, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, No Rules Rules, c'est une honte des excès du capitalisme. Vraiment, bon. Quoi d'autre ? 83% des Américains utilisent YouTube. 83% des Américains utilisent YouTube. Gagnant.
Mais pas premium. Du coup.
Pas premium.
Qui ne gagnent pas assez d'argent.
C'est ça. Le nombre d'Américains qui gagnent assez d'argent pour se payer YouTube premium est un peu moins élevé. D'ailleurs, il y a déjà eu 25 000 licenciements dans la tech en 2024. 25 000. Quoi d'autre ? Bon, chez Apple, ils auraient quadruplé le nombre de miles parcourus avec leur voiture super secrète, là. Quadruplé le nombre de miles parcourus. Donc, les choses continuent à augmenter. La voiture arrive. Vous voyez, on n'aura même pas le temps de se moquer du Vision Pro que... comment elle va s'appeler, la voiture Apple ? Bon, c'est peut-être Apple Car, mais...
L'Icar.
Icar, non. I, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans. Non, la Apple Wheels. La Apple...
Oh, non, c'est bizarre.
Non, c'est bizarre, Apple. Apple Mobility, pas mobile, non. Mobile, ça fait pas mobile.
Non.
Bon, votre devoir pour le mois prochain, trouver un nom pour l'Apple Car.
OK.
Et en attendant, il y a aussi sur la newsletter deux articles hyper intéressants, trucs hyper intéressants. D'abord, un article qui parle de la manière dont les auteurs de livres notamment, mais pas que, sont obligés de devenir des influenceurs pour signer des contrats d'édition, alors que certains, ils s'en foutent d'être influenceurs. Hyper intéressant cet article dans la newsletter. Et puis un autre qui parle un petit peu de l'état de Twitter ces derniers temps. Je vous laisserai aller le voir. Un festival de bots qui est exceptionnel. Exceptionnel. Je vous laisserai aller voir ça, c'est dans la newsletter. Merci à tous les deux d'avoir été dans cette émission. On a passé d'excellents moments en votre compagnie. Si on en veut plus, est-ce que vous pouvez me dire où DrivePod ? Pas mal, le DrivePod. C'est pas mal, Cédric. Si on en veut plus de Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah ben en ce moment j'ai un peu repris les lives sur la chaîne de l'école, j'ai un peu plus de temps, c'est le second semestre, tout ça, donc ce matin j'étais en direct pour le Before Work tous les mardis matins en fait de 8 à 9 et le jeudi midi aussi entre midi et 2 où je fais un live, ça s'appelle Loaded et en gros c'est pareil, c'est de la veille tech, on discute de sujets, j'ai souvent un étudiant avec moi qui m'accompagne pour justement parler de tout ça. Et demain, on a même une émission. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça n'a aucun sens. Mais avec la directrice générale de l'école qui vient de Paris et tout exprès, on va parler des IA génératives, justement, et de l'influence que ça a dans l'éducation de manière globale, puisqu'on est hyper concernés par le sujet. Et de la façon dont nous, école, on appréhende ça. Voilà. Et c'est sur la chaîne Epitech Digital School qu'on retrouve sur Twitch, tout bêtement.
Epitech Digital School, magnifique. Merci beaucoup, Cédric.
Je fais la pub dans ton chat.
Le chef de l'Internet, est-ce que c'est une position politique, chef de l'Internet ? Parce qu'en critiquant les politiques, là, constamment...
Non, c'est absolument pas une position politique.
C'est une bonne situation.
C'est une bonne situation, exactement. Non. À la base, c'était juste pour rigoler, tu vois, parce qu'en fait, je voyais tout le monde qui mettait CEO, machin...
Tu veux dire que tu n'es pas vraiment chef de l'Internet ?
C'était notre époque. C'était une époque où tout le monde étalait son titre dans sa bio Twitter en disant « Moi, je suis responsable, machin, chef. »
Mais oui, mais il n'empêche. En tant que chef de l'Internet, tu as des responsabilités. Qu'est-ce que tu fais pour arranger le problème
J'ai un tampon, tu vois, je te le montre, j'ai un tampon et je tamponne toute la journée des autorisations pour, bah, par exemple, à chaque fois que tu déplaces un fichier en ta corbeille, c'est moi qui le valide, à chaque fois que tu envoies un mail, c'est moi qui le valide. Voilà, c'est très très fatigant, hein, vous vous rendez pas compte. Donc, voilà,
tu vois que les responsables politiques ont un travail qui est difficile, tu le prouves toi.
J'en parlerai à Laurent Wauquiez, on verra ce qu'il dit, mais oui, ça marche.
Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Internet.
Eh bien, sur Twitch dans 10 minutes, hein, sur ma chaîne CorbenFR. sur ma Patreon.com, moi je fais la pub, je m'en fous, hein, Patreon.com/Corben pour me soutenir. Si vous en avez marre de soutenir Patrick ou si vous avez deux.
Mais en plus, vous pouvez faire un petit peu de dons.
Voilà, dès que vous êtes riche, hein, les CSP+, là. Et ensuite, sur mon blog, évidemment, Corben.info. Et moi, je ne suis pas vraiment sur Threads. Parce que je ne suis pas gentil. Moi, j'étais en premier sur Twitter. Je serai en dernier sur Twitter. Donc, j'attends que Elon Musk se barre et je reste sur Twitter. Voilà.
D'accord.
Sur X, j'appelle ça encore Twitter. Parce que voilà, je suis un enfant
très
de
bien. Voilà. Eh ben, écoute, justement, je parlerai un petit peu de l'état des réseaux sociaux dans un instant pour les abonnés Patreon. Patreon.com/RDVTech. Où on en est? Qu'est-ce que ça donne de mon expérience personnelle? Vous serez peut-être un petit peu surpris. Et justement, sur les réseaux sociaux, je suis Note Patrick un petit peu partout. Moi, je suis un petit peu partout, hein, contrairement à Corben, qui est fidèle à Elon. Et vous pouvez me retrouver partout là-bas. Les liens sont dans les notes de l'émission, mais le lieu où vraiment on se retrouve et où c'est sympa, c'est le Discord. Discord de la communauté, elle est hyper... C'est un lieu formidable où les gens sont gentils. Le ciel est bleu, il fait chaud, juste comme il faut, mais pas trop. Vous pouvez retrouver ça dans les notes de l'émission. Et puis les lives, tout ça, vous connaissez. On vous fait de grosses bises. Ah oui, et donc, normalement, si tout va bien, ce week-end, il y aura un petit hors-série pour vous parler de mon aventure Patreon, des débuts, de cette première étape qui a eu lieu il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans, le 10 février, c'était fou. Je vous remercie de nous avoir suivis. On sera de retour dans une semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous excellemment bien. Pas juste un petit peu. Si vous pouvez exceller un petit peu et vous porter excellemment bien, essayez. Il faut toujours... Je me mets dans l'esprit de No Rules Rules. Soyez toujours le meilleur de vous-même. Allez plus loin,
Thibaut
plus haut.
Chef. Plus rien à foutre de ton podcast de merde. Non, pardon.
Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là.
Il faut l'excellence.
J'ai regardé une vidéo sur Thibaut Inchep, c'était Blast, je crois, hier. La vidéo de Blast
c'est Usul.
Ouais, avec Usul et ouais, bon, j'en parlerai peut-être un jour. C'est intéressant la manière dont il traite la chose.
Oui, c'est rigolo.
Ouais, je suis pas d'accord avec tout. Il y a des choses.
Non, moi non plus. On en parlera, mais
peut-être, oui, un jour. Très bien. Merci à tous. On vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.
Ciao.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.